Vous écoutez
RMC. RMC Intégral Sport.
Christophe Cessieux.
Bonjour à tous, c'est l'Intégral Sport. Ravi de vous retrouver comme tous les dimanches après-midi. Un dimanche soir, il sera beaucoup question de football évidemment, mais le foot ce sera pas à 13h cette semaine. Non, ce sera à partir de 15h avec des affiches somptueuses qui vont venir vraiment égayer notre dimanche. Auparavant, eh bien nous allons partir dans un instant pour la Belgique, les Ardennes belges très exactement, pour le dernier monument de la saison des classiques Liège-Bastogne-Liège. C'est la doyenne des classiques. On en parle dans un instant avec Arnaud Souk et avec Cyril Guimard qui vont rester avec nous jusqu'au terme de cette course aux alentours de 17h. Le journal olympique évidemment, c'est tous les samedis, tous les dimanches avec la découverte de nouveaux athlètes qualifiés pour les Jeux de Paris. On sera tout à l'heure avec Lou Berthomieux qui est une voileuse qui va donc disputer les Jeux olympiques non pas à Paris mais à Marseille dans sa catégorie. Elle nous expliquera son embarcation et ses rêves pour ces Jeux olympiques. Et puis donc, la présentation des principaux matchs du jour. On parlera de Paris Saint-Germain-Lyon avec Arthur Perrault, de Brest-Monaco avec Xavier Grimaud. On évoquera aussi Lille, Strasbourg, Le Havre, Metz, Reims, Montpellier et Toulouse-Marseille. Il y en aura pour tous les goûts, tous les supporters vont être ravis cet après-midi et ce soir par ces matchs. 13h04, voilà donc le programme et tout de suite, eh bien, nous prenons la direction des Ardennes belges. On leur va retrouver Arnaud Souk qui a mis son petit bonnet, ses gants, un gros manteau, non. Même pas. Non, mais il est solide.
Non.
Il est
solide. J'ai juste allumé le chauffage.
Ah, mais c'est bien. T'as le chauffage, toi.
Oui, Christophe, comme toi, t'as la clim l'été sur le Tour de France. Voilà, on est bien équipé, on a le chauffage équipé, quand il fait frais, et il fait régulièrement frais quand même. On va se l'avouer, capitale. Oui, mais il fait frais, mais là, moi, je suis, si tu veux, en intérieur. Voilà, je suis au chaud.
T'as fait ta cheminée,
à Liège, sur la ligne d'arrivée qui est des Ardennes. Oui, la cheminée qui importune d'ailleurs des collègues qui ont donc baissé un petit peu parce qu'apparemment le chauffage était trop fort.
Le mec, il a mis à bloc le chauffage.
Je me suis fait engueuler, tu sais. Non, en plus, j'exagère. C'est pas du tout vrai. On m'a juste demandé si on pouvait baisser le chauffage et j'ai dit oui. Tout ça pour dire, effectivement, mon cher Christophe, qui fait pas très très chaud, ouais. Sur la ligne d'arrivée, qui faisait encore moins chaud il y a quelques kilomètres quand le peloton est arrivé au point le plus méridional de cette course Liège-Bastogne-Liège, en l'occurrence le rond-point de la Doyenne du côté
en plus,
de Bastogne.
On est
quasiment au Luxembourg, mais au sud de la Belgique et au nord du Luxembourg. Bref, quasiment au sud de la Belgique et quasiment au Luxembourg. Il y avait de la neige ce matin, figure-toi. Donc oui, tu as bien fait de me demander si j'avais mis le bonnet et les gants. Et on a vu ce matin des coureurs qui étaient très très équipés. On voit qu'ils ont encore le Kawe actuellement à 137 km de l'arrivée, alors qu'ils abordent pour les hommes de tête la deuxième difficulté du jour. C'est la côte de Saint-Roch. Je te rappelle juste très rapidement le groupe d'échappés. Il y en a 9. On a 4 Français, Paul Orselin, Fabien Doubet, Lilian Calmejane et Rémi Rochas, le coéquipier notamment de David Godu, Valentin Madouas et de Romain Grégoire. Et ces hommes-là ont 4 minutes d'avance environ sur le peloton qui lui, eh bien, compte bien au chaud quelques-uns de ses favoris: Tadej Pogacar, Mathieu Van Der Poel, Richard Carapaz, Thomas Pidcock, Jay Hindley, Mathias Skelmoseu, ou encore, si on veut citer des Français, Romain Bardet, Kevin Vauclin, ou Benoît Cosnefroid.
Bon, ben voilà, il a tout dit, donc j'ai plus de questions à te poser, là, c'est un petit...
C'est pas vrai, ah, ça c'était en revanche, oui, mais c'est mon rôle quand même de dire les choses, non?
Ah, mais quand tu dis tout, j'ai plus de relance, quoi.
Ah oui, c'est ça, mais... Voilà.
Donc, du coup, je vais me tourner vers notre puits de science.
T'as mal préparé,
je
mais voilà.
Je vais me tourner vers notre puits
c'est
de science.
C'est exactement ce que je voulais que tu fasses.
À qui les conditions météo difficiles vont rappeler un sacré souvenir. Cyril Guimard est avec nous, le druide. Bonjour mon Cyril.
Oui, bonjour à tous.
Alors, salut Cyril.
Je faisais référence évidemment à un Liège-Bastogne-Liège entré dans la légende, celui de 1980, Cyril, remporté par un petit coureur français du nom de Bernard Hinault. 1980, Liège, enfin la doyenne s'était courue dans des conditions autrement plus difficiles que celles d'aujourd'hui quand même. Cyril, raconte-nous un peu ce qui s'est passé cette année-là.
Ben oui, maintenant c'est des courses de loisirs.
Ouais. À l'époque, on était dans le chauffage dans la cabine à l'époque, en plus en 80, quoi.
Non, en plus, ils suivaient la course.
Ouais.
Ah ben oui. Non, non, pas en vélo, mais la plupart en voiture, même certains en moto. Voilà, mais les temps ont changé, les techniques ont changé, la technologie a également fait d'énormes progrès, ce qui fait que on peut être au chaud dans sa petite cabine, juste au-dessus de la ligne d'arrivée, et faire comme si on était au milieu même du peloton. Ils sont pas arrivés?
Si, si, non, les gaufres même sont arrivés. Ah, si, si, elles sont arrivées.
Ah, bah, oui,
bien chaudes, bien sucrées.
Oui, c'est vrai que ce Liège-Bastogne-Liège de 80 reste dans toutes les mémoires. Il fait partie des courses légendaires, pas en tant que Liège-Bastogne-Liège, mais par rapport à toutes les conditions. Il y a très peu de coureurs d'ailleurs qui ont fini. Et puis je voudrais rappeler que à cause de moi, Bernard Hinault n'a pas gagné avec plus de 10 minutes. Il a gagné avec 9 minutes et quelques.
9 voilà, minutes 24 sur Annie Cooper.
Voilà, on a fait un changement de vélo au pied de la Redoute. Comme on avait le temps, on s'est pas non plus précipité. Donc, avec peut-être un peu plus d'ambition, on aurait pu terminer avec 10 minutes d'avance. Ouais. Mais ça ne change rien à l'exploit de Bernard. Alors, rappelons les conditions très rapidement. En fait, on a eu la neige pratiquement dès le départ dans la montée de la côte des Forges et jusqu'à Hawaï.
Maintenant, c'est nouveau ça.
Oui, mais c'est pas celui auquel tu fais allusion. Là-bas, on crève de chaleur plutôt. Et donc, cette neige a pris au sommet de la côte des Forges. Et dans la, mais quand je dis la neige, une tempête de neige, quoi. Ouais. Et donc, on avait toute la longue descente derrière et puis l'autre descente pour aller sur Hawaï. Et là, les coureurs ont été littéralement pris par le froid, et il y a eu pratiquement une centaine de coureurs qui ont abandonné en 20-25 kilomètres.
Je rappelle juste que 21 coureurs ont fini cette année-là, Cyril.
21.
Oui, parce qu'il y en a d'autres qui ont eu une panne de moteur après. Et puis quand il a fait froid, moi j'ai demandé à Bernard d'attaquer sur la première côte qui arrivait avec Maurice Le Guillou, parce que je sentais bien qu'il était à la limite de décrocher. Et il y a que j'ai presque envie de dire son orgueil du moment qui a dit non, je vais pas arrêter. Et Maurice Le Guillou a embrayé, ce qui leur a permis de se réchauffer. Et puis la neige a arrêté. Voilà. Donc il faut bien savoir que la neige, on l'a eu à peu près 50
km. C'était en début de course.
Ouais.
Alors que bon, par exemple, on a vu mercredi dernier là aussi des conditions Arnaud sur la Flèche wallonne terribles, hein, des coureurs pris de frissons, de convulsions tellement il faisait froid, ils tremblaient de tous les côtés. Ça a été le cas de Skelmose. C'était déjà le cas il y a 3 jours. Hein.
44 coureurs seulement qui ont terminé la Flèche Wallonne l'autre jour, et Mathias Kelmoseux, effectivement les images étaient assez impressionnantes, hein, qui a abandonné, qui a dû être pris en charge par le personnel de son équipe, et on le voyait, alors pas convulsé, mais voilà, vraiment être transi de froid et ne plus être complètement libre de ses mouvements. Il a dû se réchauffer ensuite, ça a dû pas forcément lui faire du bien, parce que imaginez quand le sang revient dans les veines, par exemple quand vous avez froid aux doigts, bah lui ça a dû être le froid sur tout le corps. Donc ça a dû être vraiment une sensation assez pénible à expérimenter. Et d'autres coureurs que lui l'ont d'ailleurs raconté. Bon voilà, aujourd'hui, c'était pour ça que je vous disais, il ne faut pas non plus vendre l'horreur. On est vraiment très très loin de ces conditions-là.
Bon,
il fait sec sur la route de Liège-Bastogne-Liège. A priori, il n'y aura pas de pluie, même si c'est nuageux. Et puis bon, quand même, il y aurait de la pluie. Hein. Souvenez-vous par exemple, Mathieu Van Der Poel à Glasgow, l'été dernier, sous 10-12 degrés. Bon, bah, il avait quand même réussi à aller au bout et à faire une course dans des conditions dantesques, certes. Mais enfin bon, c'est pas non plus exceptionnel qu'il y ait de la pluie sur la route.
Ça n'est pas l'apocalypse.
Ça n'est pas l'apocalypse, et je vous engage à repenser à notamment la victoire de Ben O'Connor à Tignes sur le Tour de France 2022, si je dis pas de bêtises, ou 2021, je sais plus. Une étape où il y avait eu de la pluie du début à l'arrivée, où les coureurs étaient passés, il faisait 6 degrés en haut du Cormet de Roseland. Bon, ils ont survécu. Hein.
Exactement. Donc les conditions. Alors,
heureusement quand même que la plupart du temps on survit.
Oui, c'est mieux. Autrement, il y aurait plus
de temps.
Entre ça et les chutes, c'est vrai qu'au bout d'un moment, tu vas plus finir par avoir plus beaucoup de coureurs. Alors évidemment, cette classique nous fait saliver d'avance parce que Cyril, les deux monstres sont là. Hein, Tadej Pogacar oppose à Mathieu Van Der Poel, Mathieu qui a réalisé un début de printemps exceptionnel, remportant le Tour des Flandres et Paris-Roubaix. Et Tadej Pogacar, lui, a différé un peu sa saison parce qu'on sait que ses objectifs arrivent. Là, ce sera le Tour d'Italie puis le Tour de France. Mais il a aussi, en tout début de saison, réalisé quelques numéros exceptionnels. On se souvient notamment de ses 80 km d'échappée dans l'Estrade Bianchi. Aujourd'hui, eh bien, il se retrouve. Il s'était déjà affronté lors de Milan-San Remo. Aucun des deux n'avait pu s'imposer ce jour-là. Est-ce qu'on risque d'avoir le même genre de scénario aujourd'hui, ou alors la course, selon toi, Cyril, est vraiment réservée à l'un ou l'autre des deux champions aujourd'hui?
Alors, la clé, en fait, c'est Van Der Poel qui l'a. Est-ce qu'il va négocier l'ensemble des difficultés, c'est-à-dire les bosses qui font en règle générale entre 1 et 2,5 km avec des pourcentages relativement importants? Est-ce que ces efforts de 4 ou 5 ou 6 minutes, il va les passer aussi bien qu'un Pogacar? La réponse, elle est là. Et puis, on se rend compte qu'on sait peut-être pas tout sur ces deux hommes, parce que pratiquement, ils ont changé cette année leur façon de procéder. C'est-à-dire qu'on court beaucoup moins, mais on cible ses objectifs. Alors c'est vrai pour Van Der Poel et c'est vrai pour Pogacar. Et en dehors de Milan-San Remo, et encore on peut dire que c'est Van Der Poel qui a gagné, puisque c'est son équipier qui l'emporte, eh bien à chaque fois qu'ils sont arrivés avec l'objectif avoué, après être resté un certain moment sans courir, à chaque fois ils ont fait tilt. Donc aujourd'hui, il va falloir qu'il y en ait un qui soit KO. Alors on va attendre ce KO.
Oui, on va l'attendre. Ce sera pas pour tout de suite, a priori. Hein. Même si Poggi disait cette semaine, Arnaud, pourquoi pas tenter de s'échapper à 100 km.
Non, mais il disait ça sur le tour de la blague. Hein. Ouais. Il disait ça sur le tour de la blague parce qu'on lui a posé la question. Bon, vous avez fait 80 à Ostrade, Mathieu a fait 60 à Roubaix. Qu'est-ce qu'on doit attendre? On doit attendre une attaque de loin. Il a dit, en rigolant, il a dit bon bah vas-y, tentons les 100 km. Non, mais la réalité de la course devrait quand même être tout autre. En plus, il y a vent de face aujourd'hui en revenant donc de Bastogne. Donc sur les 150 derniers kilomètres, donc ça va forcément rendre plus difficile la tâche éventuelle pour un homme seul qui partirait, je ne sais pas moi, par exemple, dans la côte de la Haute-Levée à 60 km de l'arrivée, ou même dans la côte de la Redoute placée à 35 km de l'arrivée. Quoique, Remco Evenepoel nous a montré ces deux dernières années qu'il était capable de partir de loin. Donc Tadej Pogacar pourrait lui aussi faire ça, mais c'est vrai, Cyril, que ce vent de face ne va pas forcément avantager un homme seul. Hein.
Oui, et ça c'est important sur la stratégie de course. Vous parliez des échappées à long cours comme vous venez de l'évoquer. Bernard Hinault avait mis en route dans la haute levée et s'était détaché seul dès le pied de la côte de Stokeux. Donc il restait plus de 80 km suivant le parcours de l'époque. Cette année, en haut de Stokeux, il y en a 78. Mais effectivement, ça va être difficile avec un petit vent de face, même s'il n'est pas très important, vous savez, 18-20 km/h, ça suffit pour faire en sorte que les coureurs soient un peu plus prudents dans la gestion de leurs efforts.
Tiens, on va écouter notre ami Tadej Pogacar, de retour donc en course aujourd'hui, et qui va donc affronter son rival, Mathieu Van Der Poel. Que pense-t-il de lui? Quelle tactique adopter face à ce diable de néerlandais? La réponse de Poggi.
Yeah, I'm looking forward to race against Mathieu again.
J'ai hâte de courir face à lui, mais ce ne sera pas le seul coureur à surveiller, car c'est une course pour grimpeurs et Mathieu n'en est pas un, mais tout le monde sait de quoi il est capable. Ce sera une course ouverte dimanche avec des attaques de loin, une course avec beaucoup de dénivelé et l'une des plus longues de l'année.
Oui, l'une des plus longues de l'année, effectivement. Combien de kilomètres, Arnaud?
254,
effectivement. Ça va être long, ça va être très long. Il en reste encore 130. On aura l'occasion tout au long de l'après-midi de discuter de cette course. 3 minutes 20 d'avance pour les échapper. Tout le monde a des imperméables quand même aujourd'hui, ou des vêtements un peu plus chauds pour affronter.
Oui, on ne va pas se faire piéger cas d'une éventuelle averse. Ouais. Parce que c'est précisément ce qui s'est passé l'autre jour. Hein. Ils ont été piégés. Beaucoup de coureurs ont été piégés par l'averse qui est tombée de manière très... comment dire,
soudaine.
Rapide et impromptu, voilà, ouais, soudaine, ouais. Exactement.
Très bien. À tout à l'heure, Cyril et Arnaud, pour donc suivre cette doyenne des classiques. Ensuite, on passera au grand tour avec l'arrivée imminente du Giro. Pogacar sera le favori numéro 1, le grandissime favori de ce Tour d'Italie avant le Tour de France, où là aussi, vu les circonstances, vu ce qui s'est passé pour Vingegaard, il apparaît aussi comme favori. Mais encore, faut-il passer les obstacles, faut-il passer le mauvais temps et les chutes possibles, évidemment, puisque à chaque course, course malheureusement sa gamelle. 13h18 sur RMC, on vous parlait d'un néerlandais volant avec Mathieu Van Der Poel. Il y en a un autre qui survole encore plus, parce que à la différence de Van Der Poel qui a des adversaires et qui parfois parviennent à le battre, ce n'est pas le cas de Max Verstappen qui lui continue sa course en avant, sa marche triomphale vers un nouveau titre de champion du monde de Formule 1. Ce matin, il s'est imposé avec une facilité déconcertante dans le Grand Prix de Chine que nous commentait Jean-Luc Roy. Bonjour mon Jean-Luc, rebonjour.
Oui, salut mon Chris, bonjour à tous.
Oui, Verstappen, à la différence de Van Der Poel, n'a pas vraiment de garçon capable de le battre, on a l'impression quand même, hein, Jean-Luc. Bon, c'est un constat qu'on fait régulièrement depuis le début de la saison, même s'il a laissé quand même échapper une victoire quand même cette année. Merci, merci monsieur Verstappen, trop gentil. Mais voilà, quand il est en course à armes égales avec les autres, il y a pas photo, quoi.
Ben oui, encore faut-il préciser que la victoire qu'il a laissé échapper, tu t'en rappelles, hein, c'est parce qu'il a eu un problème technique, un problème de frein, oui, en Australie, oui, sur la roue arrière droite. Alors, on a compris dès le départ qu'il était moins bien que d'habitude, puisqu'effectivement, il était un petit peu à la lutte et qu'il avait du mal à résister. Et puis, en définitive, ce problème l'a éliminé rapidement à l'issue du deuxième tour. Mais c'est vrai qu'il est vraiment trop fort, quoi. Il n'y a rien à dire, hein. On voit que Pérez, cette année, fait un excellent début de saison. Vraiment, là, il est là, présent. Même si là, il termine troisième, il n'a pas réussi à revenir sur Lando Norris parce qu'il a perdu un petit peu de temps dans. Bon, la course a été mouvementée, hein, tu t'en rappelles, ouais, ce matin, parce qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de choses. Bon, la probabilité, effectivement, de virtuel safety car, c'était 50%, bah, c'est parfait, on en a eu un. Et celle de safety car, c'était 75%, bah, c'est parfait, on en a eu deux. Donc, ça veut dire qu'il y a eu trois départs de course, en fait, hein, puisqu'à chaque fois, on regroupe tout le monde. Et à chaque fois, il a repris l'écart. Et bon, sur le dernier départ, le dernier feu vert, c'était au 32e tour sur les 56 à parcourir. Et ben, tu vois, le calcul est vite fait. En 24 tours, il a creusé un écart de près de 14 secondes sur Lando Norris, qui était derrière lui. Donc oui, c'est le plus fort de très loin. Alors bien sûr, comme toujours en Formule 1, les meilleurs pilotes héritent des meilleures voitures dans les meilleures écuries. Tu sais, il n'y a pas de secret. Donc il y a un effet cumulatif. Et Pérez aurait bien voulu donner la réplique, mais ça n'a pas été possible. Et au départ, il a même été devancé par Fernando Alonso.
Ils ne sont pas un peu déprimés, les autres pilotes, de voir cette supériorité, ou alors ils s'y sont habitués depuis le temps, Jean-Luc? Est-ce qu'aujourd'hui, quand on est pilote de Formule 1, autre que Verstappen, on se bagarre pour la deuxième place, hein, en Grand Prix?
Bah, il faut reconnaître, ça ressemble un peu à ça, oui, tu sais, j'essaie toujours de trouver une raison d'avoir de l'espoir que ça change, mais là, il a aligné 5 pole positions consécutives.
C'est un peu comme le PSG en Ligue 1, tu vois, tu sais ouais. Que les autres équipes se bagarrent pour la deuxième place, quoi, en gros, c'est un peu ça.
Ben, en plus, il ne commet pas d'erreur. C'est absolument incroyable. Dingue, tu te dis, de temps en temps, il va se prendre les pieds dans le tapis. les qualifs de la sprint race, c'était compliqué.
Même Jean-Luc, ouais. Avec toute la panique, tout ce casino, comme disent les Italiens, de début de saison, au sein de son écurie, on aurait pu croire que ça allait le perturber, mais pas du tout. Le mec, il n'y a rien qui le perturbe, quoi.
Ben non, là, lui, il s'occupe pas de ça. Il l'a dit à plusieurs reprises. Des questions lui ont été posées en disant, puisque son père, hein, on le sait, Jos Verstappen a mis un peu les pieds dans le plat, c'est le cas de le dire, en demandant carrément le départ de Christian Horner. Lui, il a dit, moi, je m'occupe pas de tout ça. Moi, je pilote, c'est tout ce qui m'intéresse. Et quand on dévoque son départ, bon, Toto Wolff doit faire, je sais pas si c'est la danse de la pluie, mais il essaie, en tout cas, il a sorti le carnet de chèques pour essayer de le faire venir, mais dans l'état actuel de la situation, et quand tu vois ce que font les Mercedes, ouais, il faudrait qu'il soit complètement fou. Bah oui, bien sûr. Non, là, je pense qu'il n'y a pas une chance de le voir arriver, quelle que soit effectivement la tendance à l'intérieur de l'équipe. D'ailleurs, ça a l'air de se calmer un petit peu. Ouais, bon, c'était un peu tempête dans un verre d'eau, faut être très clair, hein. Tu sais, j'avais donné tout le détail. Ouais. C'est une histoire de coq dans un poulailler. On va s'arrêter là, ça te va comme ça?
Ouais, c'est très bien. Beaucoup trop de coqs dans le poulailler et pas assez de poulettes.
Voilà, c'est un peu
bon,
ça l'histoire.
Alors, Verstappen qui s'impose. La belle perte du week-end, elle est signée Norris qui termine deuxième. On n'attendait peut-être pas les Mercedes aussi haut, parce que les Ferrari avaient montré de belles choses en qualif et tout au long de la semaine. Les Ferrari, bon, elles sont pas loin, mais elles sont un peu décevantes quand même aujourd'hui. On aimerait bien les voir au contact ou un peu plus au contact des Red Bull. Ça n'a pas été le cas. Et pour une fois, Leclerc termine devant Carlos Sainz.
Bah écoute, oui, alors il fallait qu'ils remettent aussi un peu les pendules à l'heure. Déjà en qualif, on les a pas vus à leur niveau, tu as raison de l'évoquer. C'était le cas en sprint hein, également, où on a vu qu'elles barquaient un petit peu le pas sur ce circuit. Alors c'était vrai que c'est une relative déception, parce que on pensait, tout le monde pensait, Fred Vasseur aussi d'ailleurs, il avait dit non, ça c'est un circuit où on devrait être bien, etc. Et non. On n'a pas du tout vu les Ferrari à la fête. Donc Charles Leclerc qualifié 6e, 8 millièmes seulement de seconde devant Carlos Sainz 7e, tu vois. Alors après ils arrivent à terminer 4 et 5. Bon, c'est plutôt pas mal hein, compte tenu des circonstances, compte tenu de la stratégie décalée d'Alonso. Alors en voilà un qui a du courage, lui il fait plaisir. Voilà, c'est des courses. Il a tenté un coup là au 24e tour, donc en plein safety car, lui il s'arrête et il met carrément des pneus soft. Fallait oser. Il fallait en avoir, comme on dit, du courage. Et donc, il repart avec ça. Bon, après, il sait qu'il va être obligé de s'arrêter avant la fin. Il s'arrête à nouveau au 44e tour pour chausser les médiums. Mais ça lui permet de signer le meilleur tour en course en une 37-810. Et du coup, bah, il rafle un point supplémentaire. Non, il fait le boulot. Hein. Stroll aussi, il fait le boulot. En ramassant, tu sais qu'il a mis un grand coup dans Ricardo. J'en ris parce que c'est... Bon, à un moment, il y avait un petit peu de confusion. Et donc il est venu percuter effectivement la RB de Ricciardo qu'il a envoyé en l'air. Et du coup c'est Piastri dont la McLaren a été un petit peu... On le voyait descendre dans le classement, il termine que 8e hein, avec l'autre McLaren. Bah, c'est parce que également il avait souffert de dégâts. Il y a eu un petit empilage là où, juste à l'amorce de la chicane. Bon, et ça arrive, je pense que Stroll, je sais pas s'il a confondu les pédales, mais en tout cas il a pas bien vu à quelle vitesse on s'arrêtait devant lui.
Il a perdu les pédales, voilà. Notre ami Lance Stroll.
Un petit peu.
Fils du patron, évidemment, mais que bon,
bah oui.
Il a une bonne voiture, mais il a parfois un peu de mal. Très bien, Jean-Luc. On me presse, on me dit qu'il faut malheureusement passer à autre chose. Ah ouais, je suis désolé, c'est comme ça.
C'est la vie. On parlera de Miami alors dans deux semaines.
Dans deux semaines,
il y aura une sprint race également.
Tu vas être un peu à la maison là. Hein, t'es un peu le régional de l'étape dans cette histoire.
C'est ça.
Ça va être bien ça.
Comme ça. Oui. Bah le circuit est pas trop mal. Écoute, honnêtement, il y avait quelques points à revoir, je sais qu'ils ont été revus, donc normalement on devrait voir une course dans une ambiance un peu différente parce qu'il faisait pas très chaud en Chine et là évidemment à Miami faire bon.
Et tout le monde est invité à la garden party de Jean-Luc Roy dans sa piscine, voilà. Si vous êtes du côté de Miami dans 15 jours, c'est ça?
Oui, deux semaines.
Semaines, voilà. Donc bon, on y va tous, on est invité chez Jean-Luc, ça va être très sympa. Merci mon Jean-Luc.
Avec plaisir.
Et tu prépares bien les merguez et les saucisses, hein, on arrive.
Oui, bon Liège, Bastogne Liège alors.
Merci mon Jean-Luc. Bah oui, non, il y a le magazine olympique qui arrive dans un instant.
Ah bah alors voilà.
Ah oui, il y a les jeux, tu sais, à Paris quand même.
J'ai entendu
parler de ça, oui. Ton ami Anne qui organise. Merci Jean-Luc Roy. À très bientôt.
Mais avec plaisir.
13h25 dans un instant, en route. Bah oui, en route pour Paris 2024. En l'occurrence, on va aller à Marseille parce que c'est à Marseille qu'auront lieu les épreuves de voile. Et nous serons dans un instant avec Lou Berthomieux. On va mieux la découvrir. À tout de suite.
RMC Intégral Sport.
Christophe Cessieux.
13h27, vous êtes sur RMC dans une heure et demie maintenant, le début de la journée de Ligue 1 avec des matchs incroyables tout au long de l'après-midi. Ça débutera donc à 15h et ça se poursuivra évidemment jusque tard ce soir, avec notamment en clôture de soirée le match entre Paris Saint-Germain et Lyon à 21h. Je vous donne le programme des autres matchs. Donc à 15h, Le Havre-Metz, Lille, Strasbourg et Reims-Montpellier. À 17h05, Brest-Monaco, bagarre pour la deuxième place et pour être dauphin du PSG, c'est comme en Formule 1 maintenant, on se bagarre surtout pour la deuxième place. Et puis à 19h, Toulouse-Marseille, les Marseillais vont-ils tout donner sur cette Ligue 1 ou vont-ils en garder sous la pédale pour la demi-finale d'Europa League? Eh bien nous verrons ça tout à l'heure, donc 19h pour le match de l'Olympique de Marseille. 13h28, il est l'heure maintenant de prendre la route de Paris 2024.
RMC, en route pour Paris 2024.
Et on Marseille 2024. Et oui, parce que toutes les épreuves n'auront pas lieu à Paris, et notamment les épreuves de voile difficiles. Alors, on peut nager peut-être dans la Seine, mais on peut pas encore faire de voile. Et nous accueillons une jeune femme qui a appris une très bonne nouvelle cette semaine. Elle sera de la fête olympique l'été prochain pour les épreuves de voile. Bonjour Lou Berthomieux. Bonjour, merci d'être avec nous. Lou, la bonne nouvelle est donc tombée cette semaine, après qu'avec ton coéquipier Tim Mouniac, vous soyez allé chercher une très belle 4e place, je crois, lors d'une épreuve de Coupe du Monde. C'était au début du mois. Vous aviez des doutes ou c'était déjà bien engagé cette histoire?
Alors, il faut dire que moi, je me suis blessée l'année dernière au test event. Donc, c'est vrai que les croisés, ça a pris 5 mois et demi pour que je revienne sur le bateau. Donc, il y avait beaucoup d'envie, quelques doutes. Il fallait aller valider, il fallait aller montrer au DTN, notre directeur technique national et notre directeur d'équipe de France, que j'étais capable encore de naviguer. Et chose faite. Et donc, on a été choisi pour représenter la France cet été.
Ah bah c'est magnifique. Comment se fait les croisés sur un bateau, Lou, raconte-nous, parce que c'est une c'est alors, une blessure de rugbyman, de footballeur,
ouais,
on voile aussi sur le bateau, on peut se faire mal hein.
Disons que oui, en fait, on est sur un bateau qui est assez instable puisque on vole et on vole à des vitesses qui sont assez hautes. Et ben moi, je suis rentrée dans le bateau pour pouvoir hisser notre voile qui s'appelle le spi pour faire du vent arrière. Et en fait, en rentrant, j'ai mal placé mon genou avec un peu de fatigue et un peu de précipitation et mon genou est parti à l'intérieur. Voilà, je me suis fait les croisés et donc j'ai été arrêté pendant 5 mois et demi.
Eh ouais, c'est long évidemment. Ça, c'est pour tout le monde pareil, qu'on soit footballeur, rugbyman ou skipper. Voilà, c'est 5 mois et demi minimum. Aujourd'hui, ça va. Tu ressens plus de douleur et tu sens que t'as récupéré tous tes muscles dans la jambe. Tout va bien.
Oui, j'ai eu la chance d'être très très bien accompagnée, notamment par le staff fédé qui a trouvé le très bon chirurgien et très bonne. J'ai fait un petit tour à Cap-Breton aussi, mais surtout à Saint-Martin Sport, qui est une clinique pour sportifs à Marseille. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, je me sens à 100%, voire même mieux qu'avant en termes de physique sur le bateau. Donc, je suis très heureuse.
Très heureuse et donc qualifiée pour les Jeux Olympiques. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas les choses de la voile, tout ça est un peu compliqué, notamment en raison des noms, des catégories. Toi, tu pratiques le NACRA 17. Ça,
oui,
c'est original.
C'est ça.
Je ne connaissais pas ce nom. Ça désigne un kata, c'est ça, un catamaran.
C'est un catamaran.
Mais avec un foil. Donc, ils volent.
Alors, c'est un catamaran avec 4 foils.
Ouais.
Quatre. 2 foils derrière, avec ça fait une forme de T. Mmh. Et 2 foils devant qui sont en forme de Z, on va dire.
D'accord.
Et ça permet au bateau de voler au-dessus de l'eau, qu'on soit en train de remonter au vent ou qu'on descende. Et ben, on vole et on vole à des super vitesses qui font que ben on a des super sensations de glisse.
C'est génial,
et...
hein.
Ouais.
on a une idée. Enfin, oui, tu dois en avoir, mais la vitesse que vous pouvez atteindre avec ces engins-là.
Oui, on est entre 20 et 26, 28 nœuds. Donc ça fait 50, voire un petit peu plus, un petit peu plus de 50 km/h. Donc c'est comme en kart en fait. C'est,
ouais.
On est sur des petits bateaux, donc on ressent encore plus la sensation de vitesse. C'est ça qui est très grisant en fait.
Ouais, ça change de nos hobby kart de ma génération quand
oui.
même. Hein. C'est pas la
oui.
même vitesse. Hein.
Exactement. Et puis c'est pas la même vision une fois qu'on est sur le bateau. On est tous les deux au trapèze, donc on est suspendu avec
ouais.
des câbles dans nos harnais au-dessus de l'eau. Donc ça. Tout ça exacerbe encore plus la sensation de vitesse et c'est vraiment des sensations incroyables.
Génial, génial à voir. Hein. De toute façon, on voit aujourd'hui les compétitions de voile, que ce soit la Coupe de l'Amérique ou évidemment ces ultimes, ces catamarans géants. Tu pourras nous en parler parce que je crois aussi que tu as bien l'intention un jour d'aller en compète sur ces bateaux-là. En attendant, il y a les Jeux Olympiques. Tu vas les faire avec ton équipier qui s'appelle Tim Mouniac, qui lui n'est. Alors toi, t'es nantaise, je crois, et lui est du Morbihan. Comment s'est créée l'association? J'ai lu que ça avait été un coup de foudre vélique. Raconte-nous cette histoire.
Oui, alors en fait, c'est un peu délicat comme association, puisque je suis montée sur le bateau. Tim Mornec naviguait avec Noah Ancien. Et en fait, elle s'est blessée. Donc, je suis montée sur le bateau. J'avais fait très peu de NACRA 17. Et puis, on s'est présenté à un championnat du monde senior qui avait lieu à Oman. Et en fait, on a fini 4e, à très peu de points du podium. On jouait encore le podium, voire la 2e place sur la dernière manche du championnat. Et en fait, voilà, on s'est tapé dans la main et... on s'est rendu compte que il fallait qu'on aille décrocher notre place pour Paris 2024 et que c'était ensemble qu'on avait la plus grande chance de le faire.
Ouais. Oui, parce que il faut savoir que pour les Jeux Olympiques, il faut des équipages mixtes. C'est une obligation désormais, hein,
oui,
Lou.
Exactement.
Mmh. Ouais.
Ouais.
Parce que toi,
tu avais
débuté avec une coéquipière au début, c'est ça, quand tu es rentré en compétition il y a quelques années.
Alors moi j'ai commencé mon parcours minime, je pouvais le faire avec une fille, il n'y avait pas de souci, c'était mixte, enfin on pouvait tout faire. Néanmoins, une fois qu'on est dans les séries jeunes, qu'on veut se qualifier pour les mondiaux où il y a un seul représentant, ou alors qu'on monte en série senior comme le NACRA 17 qui est une catégorie olympique désormais, eh bien on se doit d'être mixte, sinon nous ne pouvons pas participer aux épreuves.
D'accord. Donc là, un garçon, une fille, c'est comme ça que ça se passe. Et ça se passe comme ça dans toutes les catégories. Hein. C'est,
on Alors, sait que... Non. Il y a des catégories. En fait, ils tendent vers le mix parce que c'est quelque chose qui émerge en ce moment et depuis quelques années. Mais il y a encore des catégories où ce sont deux femmes, deux hommes, ou alors une femme, un homme. Et voilà. Mais maintenant, on est deux supports à être mixte.
D'accord, très bien. Alors, Lou, tu es également une étudiante modèle. Hein. J'ai vu que tu étais étudiante à Sciences Po. Voilà un double projet magnifique. Hein. C'est pas le cas de tout le monde, même si de plus en plus, et notamment dans les sports qui ne nourrissent pas forcément son homme hein, ou sa femme, oui. Ce qui est le cas pour l'instant de la voile. En attendant que tu sois une skipper ou un skipper, je sais pas comment on dit pour une femme de très haut niveau, ce qu'on te souhaite. Élève à Sciences Po, ça demande quand même pas mal de travail, ce genre de cursus. Comment fais-tu en année olympique? Est-ce que tu as eu des droits à des aménagements? Raconte-nous comment ça se passe.
Oui, alors en fait, la chance qu'on a avec Tim, c'est qu'on est tous les deux à Sciences Po.
Ah, tous les deux.
Oh là là, oui, tous les deux.
Ah, les grosses têtes là.
Donc déjà, ça part. Non, mais en fait, ça part déjà d'une bonne base, puisque on a négocié que cette année, on n'irait absolument pas sur les bancs de l'école, parce qu'on avait cet objectif de qualification olympique et encore plus cet objectif de la médaille olympique. Maintenant, on a un directeur d'études qui est à Sciences Po, Jean-Claude Légal, qui est extrêmement compréhensif et extrêmement aidant et facilitant sur toute cette partie sportive. Et on ne les remerciera jamais assez. Maintenant, en septembre, je pense qu'on ira peut-être se rasseoir sur les bancs de l'école camarades. Ouais.
Vous êtes à Paris ou vous êtes dans un IEP de province?
Non, on est à Paris, mais en fait, il y a donc le grand Sciences Po de Paris. Ouais. Et puis ensuite, nous, on a une classe qui est dans les locaux de Sciences Po Paris, mais on n'est que entre athlètes. Parce D'accord. que sinon, les plannings ne pourraient pas coller. Et en fait, ce serait infaisable.
Alors Lou, à terme, tu t'imagines plutôt à l'ENA puis à la Cour des comptes ou sur un ultime dans une course autour du monde? C'est quoi ton ambition de carrière pour dans 4-5 ans?
Alors, mon ambition de carrière, je vais me permettre de répondre ni l'un ni l'autre. Moi, mon rêve, et mon objectif, c'est d'aller décrocher cette médaille d'or olympique en Accra 17 d'abord, et puis ensuite, si je pouvais tester d'autres supports, ça me plairait tout autant.
Mais toujours voilà. En voile olympique.
Mais d'abord en Accra 17.
Toujours en voile olympique, ouais.
Oui, j'aime beaucoup l'olympisme, puisque c'est vraiment nous qui tenons notre projet, qui le construisons et qui le mettons en place. Et c'est quelque chose que j'adore dans la voile et dans l'olympisme.
Ouais. Mais à terme, tu n'as pas envie de faire des courses autour du monde sur ces bateaux géants, d'aller chercher des budgets incroyables, de construire des bateaux incroyables? Ça peut devenir un objectif ou c'est pas ton truc?
Disons que ça reste dans ma tête, mais je serais peut-être plus heureuse et excitée de faire une Coupe de l'América ou quelque chose comme ça.
La Coupe de l'América.
Le plus vieux trophée de voile.
Ah, t'es vraiment une traditionnaliste de la voile, une puriste plutôt, plutôt qu'une traditionnaliste, une puriste. Quoi. C'est voile olympique,
Coupe de l'América. Disons que quand on a goûté à l'olympisme... Ouais. Quand on a goûté à cette vie en compétition, c'est compliqué de trouver quelque chose à cette hauteur-là. Après, la course au large, c'est passionnant. On voit les gens qui se... C'est une autre manière de dépasser ses limites. Voilà.
Ok, c'est magnifique. Je trouve ça très beau d'avoir cette ambition-là et d'être une puriste comme tu l'es. Évidemment, les épreuves vont se dérouler à Marseille et non pas à Paris. Oui. Est-ce que tu vas quand même venir à la cérémonie d'ouverture histoire de mettre une voile sur les barges le long de la Seine? Non, c'est possible, ça, Lou.
Oui, nous on commence la deuxième semaine, donc c'est une chance parce D'accord. qu'on va pouvoir aller avec toute cette équipe de France à Paris. Je pense qu'il est important pour nous ça va être notre première participation aux Jeux Olympiques, qui plus est en France, donc il va falloir aller, ça va être important d'aller ressentir cette ferveur, cette excitation qui va monter et tout simplement cette sensation d'être athlète aux Jeux Olympiques. Il faut aller vivre les émotions à 100% et on compte bien le faire pour nos premiers Jeux Olympiques.
Eh bien, on te souhaite une bonne fin de préparation, Lou. Vous êtes à Marseille avec Tim ou vous êtes sur d'autres plans d'eau en ce moment?
Alors là, on vient de terminer une semaine de cohésion avec l'équipe de France olympique de voile chez les militaires à Saint-Mandrier.
D'accord.
Et on est actuellement à la SOF, à Hyères. Donc nous, on ne naviguera pas parce que le Nacra 17 n'y est pas cette semaine. Mais on vient encourager nos copains français. Et puis ensuite, on retournera sur Marseille. Et puis ensuite, sur la Grande Motte pour préparer le championnat du monde d'ici 20 jours.
D'accord. Mais vous restez sur un plan d'eau méditerranéen. Hein. Évidemment, les courses olympiques auront lieu en Méditerranée. Donc on ne va pas aller s'essayer à l'Atlantique, qui est pourtant ton océan de naissance et ton terrain de jeu préféré. Merci beaucoup Lou et bravo pour cette qualification et on te souhaite de très belles choses évidemment pour ces Jeux Olympiques donc qui auront lieu non pas seulement à Paris mais aussi à Marseille avec ces épreuves de voile qui vont nous régaler. Merci Lou Berthemieux, à très bientôt.
Je vous remercie, au revoir, à bientôt.
13h39 sur RMC, un petit détour non pas par la Méditerranée mais par les Ardennes belges avec Arnaud Souk, avec Cyril Guimard pour ce Liège-Bastogne-Liège. On est encore loin de l'arrivée, hein, plus de 100 km encore, Arnaud.
Ouais, mais écoute, on a parcouru plus de la moitié du parcours, hein, 254 500 km, je vous le rappelle. Donc voilà, si tu fais la moitié, ça doit être à peu près 127 km. Ça veut dire qu'on est à plus de 50% du chemin parcouru, 116 700 km, donc encore à accomplir pour les zones de tête. Je vous rappelle qu'il y a des Français. C'est une échappée où les tricolores sont vraiment bien représentés. Rémi Rochas, Fabien Doubé, Paul Ourselin et Lilian Calmejeanne, qui est dans l'échappée après avoir expliqué hier aux journalistes qui voulaient bien l'interroger que c'était une course qu'il détestait. Et bien voilà, apparemment il déteste cette course mais il l'a fait devant. 3 minutes 12 d'avance pour ces hommes sur le peloton et toujours dans le froid certes des Ardennes. On rappelle qu'on est à 500 mètres d'altitude environ, mais le froid ne s'accompagne pas forcément de précipitations et c'est le cas pour l'instant. Il n'y a pas de précipitations.
Tout le monde a mis une petite laine quand même, hein. Tout le monde a mis une petite laine.
Mais tu l'aurais mise toi aussi Christophe.
Ah bah j'imagine, aussi. Forcément.
Je pense que tu aurais mis l'écharpe, tu aurais même mis un cache-nez.
Bah ouais, moi j'y serais pas allé tout simplement, tu sais.
Oui, toi t'aurais mangé les gaufres.
Ouais, je serais resté avec toi au chauffage. Avec le chauffage dans la cabine, peinard à bouffer des gaufres. Hein. Tu me connais.
Ah oui, je te connais. Oui. Nutella ou pas sur la gaufre
Hein
Je mets du Nutella sur
Nutella,
la gaufre.
Oui. Évidemment, non, évidemment.
Faudrait pas perdre des calories.
Non, quand même pas. Avec le froid qu'il fait, tu sais que ça bouffe des calories. Cyril, un mot des Français. On les a un peu taclés après les Flandriennes, notamment après Paris-Roubaix, où ils étaient complètement aux abonnés absents. Mais là, depuis qu'on est arrivé dans les Ardennes, ça va mieux quand même pour les Français qui ont fait de très belles places d'honneur sur la flèche, puis sur l'Amstel, puis sur la flèche. C'est des courses qui correspondent mieux aux qualités de nos coureurs. Oui. Là aussi, et je pense qu'il est à la gaufre.
À la gaufre, oui. Alors, rapidement, on peut le dire, hein, effectivement, c'est les courses qui correspondent mieux aux grimpeurs. Enfin, si tu m'autorises à prendre la parole
bien
à la place
sûr,
de Cyril.
Bien sûr. C'est des courses à boucher.
Voilà, les Ardennes, ce sont des courses qui correspondent bien plus aux qualités du coureur français moyen, j'ai envie de dire, qui est un coureur qui aime bien grimper, qui aime bien les côtes, et on en a beaucoup qui sont dans cette situation-là. On peut regretter d'ailleurs que pendant des années Thibaut Pinot ne soit venu jamais se frotter aux classiques ardennaises, mais Romain Bardet l'a très bien fait, David Godu l'a très bien fait également en se positionnant sur le podium par le passé, Benoît Cosnefroy également, Julien Alaphilippe évidemment qui a terminé sur le podium ici, qui a gagné trois fois la Flèche Wallonne. Donc il y a une petite tradition quand même, hein, française sur ces monuments ardennais, en tout cas dans la génération actuelle du cyclisme français. On aime ces courses de côte et voilà, on l'a prouvé l'autre jour en plaçant 9 coureurs dans le top 18 si l'on peut dire de la Flèche Wallonne, ce qui était quand même assez formidable de la part de nos coureurs tricolores. Mais ça serait bien de gagner maintenant, parce que ça par contre, ça fait un petit moment qu'on n'a pas gagné un monument ardennais, et la dernière fois c'était Bernard Hinault, on l'a dit en 1980 ou
80. Exactement. Voilà. Bon.
Retrouvez le meilleur du cyclisme sur RMC avec Total Énergie. De l'électricité et des services pour maîtriser votre consommation.
L'énergie est notre avenir, économisons-la.
Et on retrouvera Cyril quand il aura fini sa groupe. Je crois qu'elle est finie d'ailleurs, hein, on lui fait une bise sur le front. A tout à l'heure Cyril et Arnaud pour la suite de Liège-Bastogne-Liège. Il est 13h42, vous êtes sur RMC. Dans un instant, on poursuit notre magazine olympique. Léna Marjac va nous parler de toute l'actualité de ces derniers jours. A tout de suite.
RMC Intégral Sport,
Christophe Cessieux.
14h44 sur RMC, l'intégral sport. En attendant le début de la journée de foot, ce sera tout à l'heure à partir de 15h. Nous vivons en ce moment Liège-Bastogne-Liège. On est à un peu plus de 110 km de l'arrivée. Toujours des hommes en tête qui possèdent 3 minutes 13 d'avance. On refera un point tout à l'heure avec Arnaud Souk et Cyril Guimard. En attendant, c'est l'actualité olympique avec Léna Marjac qui est avec nous. Bonjour Léna.
Salut Christophe, salut à tous.
Et on va s'intéresser aujourd'hui, Léna, à un jeune athlète palestinien qui est pour l'instant le seul athlète palestinien qualifié pour les Jeux Olympiques. Il a fait du taekwondo, il s'appelle Omar Ismail et il s'est confié à RMC Sport.
Oui, Omar Ismail a 18 ans. Alors il réside aujourd'hui à Dubaï. Pendant l'interview, il n'a pas souhaité parler du conflit israélo-palestinien, mais seulement de son sport et de son rêve, aller aux Jeux Olympiques. Alors Omar, il a une date qui va rester gravée à jamais, c'est le 16 mars 2024. Ce jour-là, il est engagé à un tournoi de qualification olympique et il y a seulement deux tickets pour les Jeux qui sont attribués dans sa catégorie de poids, les moins de 58 kilos.
J'étais vraiment bien préparé, ça n'a pas été facile, il y avait un peu de stress. J'ai commencé en étant dans un bon état d'esprit pour aller chercher la qualification. Au premier tour, j'ai dû combattre contre mon meilleur ami avec qui je m'entraîne tous les jours. Moi, sur le terrain, il n'y a plus d'amis, c'est juste vous avec vous-même et vous devez gagner, c'est tout. Que ce soit lui ou moi, on avait le même rêve. On a juste essayé de faire de notre mieux pour atteindre nos objectifs.
Et son objectif, il l'a donc atteint. Il est qualifié pour les Jeux Olympiques de Paris. Omar Ismail marque l'histoire de son pays. Il devient le premier taekwondoïste à représenter la Palestine aux Jeux Olympiques.
C'était un bon moment, rempli d'émotions. J'en rêvais depuis que je suis tout petit. J'étais très heureux de m'imaginer à Paris avec les meilleurs athlètes au monde. Très heureux de montrer mon drapeau sur le podium.
À Tokyo, en 2021, la délégation palestinienne était composée de seulement 5 athlètes. Omar est pour l'instant le seul sportif qualifié pour Paris 2024.
Les Jeux Olympiques, c'est la compétition la plus dure au monde, donc ça représente beaucoup de choses. Le rêve serait de gagner une médaille, bien sûr, mais pas n'importe laquelle, je me bats pour la médaille d'or. Ce n'est pas facile, c'est beaucoup de travail, mais je peux le faire, je suis sûr que je peux le faire.
Et alors cet été, il aura surtout un message à faire passer aux jeunes Palestiniens.
J'espère que quand ils me voient, ils se disent qu'ils peuvent accomplir eux aussi leurs rêves. Ils peuvent travailler sur eux-mêmes, être comme moi ou encore meilleurs que moi. Et ils le seront.
Alors en attendant, il a un programme chargé d'ici les Jeux Olympiques, des camps d'entraînement et encore 3 compétitions avant de mettre pour la première fois de sa vie les pieds à Paris cet été.
Voilà la belle histoire d'Omar et Ismaël qui évidemment peut se préparer pour les Jeux Olympiques parce qu'il ne réside pas en ce moment évidemment dans les territoires. Il est à Dubaï. J'imagine que quand on est à Gaza aujourd'hui, il n'est impossible évidemment de se préparer pour les Jeux Olympiques vu l'état de délabrement dans lequel se trouve ce territoire. Merci Léna pour cette belle histoire. On va poursuivre avec de l'athlétisme et des records qui sont tombés, notamment au saut à la perche.
Encore un nouveau record du monde pour le perchiste Armand Duplantis. Il améliore d'un centimètre son propre record, 1m24. Une performance. 6m24. La performance réalisée dès son premier essai lors du premier Diamond League de la saison en Chine. Et ça promet pour les Jeux Olympiques, puisque Armand Duplantis est d'ailleurs le tenant du titre. Et puis il y a un autre record, cette fois c'est un record de France pour Sirena Samba Mayela dans la même compétition en Chine sur le 100 mètres haies. Elle réalise 12 secondes 55 et bat pour une seconde l'un des plus anciens records de France détenus jusqu'alors par Monique Evangépé.
Et oui, la sœur de Maryse, évidemment, un centimètre par centimètre. Mondo, on rappelle que c'est un peu plus de 100 000 dollars à chaque record du monde battu, donc il aurait tort de les battre de 3 ou 4 centimètres à chaque fois. C'est un jackpot quand on a ces qualités évidemment extraordinaires. Mondo Duplantis, une belle deuxième place pour un cavalier français nommé Julien Epaillard, c'était en Coupe du Monde.
Et oui, c'était la grande finale de Coupe du Monde à Longines, à Riyad, en Arabie Saoudite, le numéro 1 français et 5e mondial en saut d'obstacle, Julien Epaillard avec sa jument Dubaï du Cèdre ont terminé 2e derrière le grand favori, le suédois Henrik von Eckermann. Et à l'issue de la compétition, Julien Epaillard s'est montré extrêmement ravi de sa performance, mais surtout, il sent que sa jument est à 100%. C'était une bonne préparation pour les Jeux Olympiques, a-t-il confié.
L'équipe de France masculine de basket fauteuil s'est qualifiée pour les Jeux Paralympiques. C'était pas gagné d'avance, c'est pas comme pour les Jeux Olympiques où toutes les équipes de sport co-français sont qualifiées d'office.
Oui, il n'y a pas de quota pour le basket fauteuil. Cette équipe donc a réalisé un sans faute lors du tournoi de qualification paralympique. C'était organisé à Antibes. Cela faisait 20 ans depuis Athènes 2004 que l'équipe de France de basket fauteuil n'avait pas participé à des Jeux paralympiques. Un grand moment de joie pour Nicolas Jouancer.
Je pense qu'on réalise pas, on est un peu euphorique. On a senti ce soutien, et c'est peut-être aussi l'avantage qu'on a eu de jouer en team, parce que ça nous a permis de donner beaucoup, beaucoup d'énergie pour gagner tous ces matchs et faire ce qu'on a fait, en fait. Et je pense que là, pour l'instant, on réalise pas trop. Je pense que c'est historique parce que ça faisait 20 ans que l'équipe de France n'était pas allée au JO. Et dans notre tête, on est des compétiteurs, donc ça va être, on va aller chercher une médaille.
Et malheureusement, l'équipe de France, par contre, féminine de basket fauteuil, n'a pas réussi à avoir sa qualification pour Paris 2024. Les Françaises se sont inclinées 58 à 25 face à l'Allemagne lors d'un match décisif au tournoi de qualification à Osaka, au Japon.
Alors, ça a été la grande affaire de la semaine, les annonces du président de la République concernant des solutions de repli pour les cérémonies d'ouverture, plan A, plan B, plan C. Le préfet de police de Paris, qui était l'invité tout à l'heure de BFM Télé, Laurent Nunez, a donné plus d'informations sur les solutions de secours donc pour cette cérémonie d'ouverture.
Oui, alors on le rappelle, il y a quelques jours, c'était déjà sur nos antennes, le président de la République, Emmanuel Macron, annonçait pour la première fois un plan B, voire un plan C pour la cérémonie d'ouverture, un plan B qui serait au Trocadéro, un plan C au Stade de France. Mais à l'instant, invité sur BFM TV, donc Laurent Nunez a donné plus de précisions.
On travaille sur le plan A, c'est le plan que souhaite mener le président de la République, et c'est le plan qu'on va mener. Si tout se passe bien, s'il n'y a pas de menaces terroristes, d'attaques terroristes dans les semaines qui précèdent, c'est évidemment le plan A qu'on va mener. Et on y travaille avec beaucoup de sérénité. Le plan B, c'est un plan de contingence qui est une cérémonie qui se ferait sur un format réduit. Le président a parlé du Trocadéro, voilà, le président a tout dit. Et le plan C dont a parlé le président, ce que vous appelez le plan C, c'est le repli sur un format protocolaire. Alors parce que là, on a vraiment des menaces graves et on respecte le minimum d'une cérémonie. Mais pour l'instant, tout le monde travaille sur le plan A avec beaucoup de détermination et beaucoup de convictions. On passe de l'un à l'autre en fonction de la gravité des attaques terroristes qui auraient pu avoir lieu.
C'est clair.
Ou de la menace terroriste très caractérisée. Les menaces caractérisées, ça veut dire que vous avez commencé à détecter un groupe qui veut s'en prendre aux Jeux Olympiques. Ça n'est pas le cas.
Voilà les explications de Laurent Nunez qui expliquait donc a priori il n'y aurait pas de cérémonie d'ouverture au Stade de France. Il faudrait vraiment que la situation soit catastrophique dans notre pays. Merci beaucoup Léna pour toutes ces infos et tous ces résultats. On s'approche à grands pas de cette cérémonie d'ouverture et des Jeux Olympiques et Paralympiques qui suivront. 13h52, si nous repartions un peu sur les Ardennes, dans les Ardennes belges, avec tous ces coureurs qui affrontent la doyenne des classiques, Liège, Bastogne-Liège. On s'approche du cap des 100 km à parcourir encore, Arnaud.
107 700 km. Alors tu dis la doyenne, effectivement c'est le surnom, mais d'ailleurs c'est un surnom qui est un petit peu injuste pour une course qui est plus vieille dans le calendrier que Liège-Bastogne-Liège. Voilà, surnommée la doyenne, c'est Milan-Turin qui a été créée quelques années avant, et c'est la plus ancienne course créée qui est encore au calendrier aujourd'hui. Milan-Turin, voilà, qui a été créé, puis qui a été arrêté, puis qui a été remise au goût du jour, puis réarrêté de nombreuses fois. Alors c'est vrai qu'elle a été moins régulière dans le calendrier cycliste que Liège-Bastogne-Liège, mais ça reste aujourd'hui la vraie doyenne, si j'ose dire, des courses cyclistes, même si la doyenne, quand on en parle, on parle évidemment de Liège-Bastogne-Liège, qui reste, on va dire, la plus grande classique anciennement créée dans le calendrier cycliste. Mais tire à voir le palmarès de Milan-Turin quand même, c'est un palmarès qui vaut son pesant de cacahuètes. 106 km 600 à parcourir, toujours nos 9 hommes en tête, dont les 4 Français. Doubé, Calmejane, on a Paul Ourselin et on a Rémi Rochas, le coéquipier de Grégoire, de Madouas et de David de Gaudu. 2 minutes 35 d'avance sur le peloton.
Voilà, Cyril, Milan-Turin, tu as connu, toi, tu l'as faite, cette classique italienne?
En tant que coureur, non, mais en tant qu'équipe, oui. On l'a faite à plusieurs... pendant plusieurs années, parce qu'il y avait aussi d'autres épreuves autour de Turin avant le Tour de Lombardie. Ça faisait partie un peu des épreuves de préparation pour l'autre grand monument de fin de saison.
Oui, il y avait le triptyque,
très bon palmarès, hein.
Le triptyque d'automne, hein, c'était Tour de Lombardie, je crois, Tour du Piémont et Milan-Turin. Il y avait ces trois courses qui se déroulaient comme on a là les Ardennaises, on avait les Flandriennes.
Exactement.
Et là, c'est vrai qu'aujourd'hui, à l'automne, même si ça existe encore, certaines courses existent, elles ont un peu moins de prestige en Italie, mis à part évidemment le Tour de Lombardie. Cyril, voilà, pour l'instant l'écart n'est pas très conséquent pour les hommes de tête, il continue de se réduire.
Il y a du vent sur la ligne, hein. Je me permets de te couper, Christophe, mais parce que je sais que ça va intéresser Cyril. J'ai mis le nez à la fenêtre et je suis monté dans les arbres et j'ai pu constater que tu sais quoi, je suis même enlevé mon sweat, voilà, tellement on m'a imposé de la chaleur dans cet endroit, donc voilà, j'ai enlevé le sweat. Là, j'étais toujours aussi chaud. Non, non, mais il y a du vent, Cyril, et ça va t'intéresser parce que sur les 60 derniers kilomètres, on va avoir un vent qui va peut-être avoir son petit rôle à jouer.
Oui, peut-être, bien que les routes soient assez assez protégées du vent. On va quand même avoir un vent de côté à 20 km/h, voire plus, venant du nord-est. Et à partir du moment de la côte des Rosiers, eh bien, à partir de ce moment-là, on aura toujours un vent de côté. Quelle implication il aura, quelle possibilité de faire évoluer la course, ce vent, hein. Il est limite un peu faible, mais il faut toujours en tenir compte, surtout après 200 km.
Très bien, il est 13h55, on vous retrouve tout à l'heure, messieurs, pour la suite de cette doyenne, qui n'est pas la doyenne, mais qui est quand même l'une des plus belles de la saison, ce Liège. Bastogne-Liège, dans un instant, eh bien, on va parler des matchs de foot qui nous attendent cet après-midi. Il y en a en pagaille, et ce soir également, puisque ça se terminera par un certain PSG Lyon. C'est pas la finale de la Coupe de France, hein, ne vous trompez pas, ça sera un peu plus tard. Mais on parle de tous ces matchs, et notamment de PSG-OL, dans un instant, avec Arthur Perrault et avec tous nos envoyés spéciaux qui se rendent en ce moment sur les terrains de foot de cette journée de Ligue 1. A tout de suite, juste après les infos.
RMC Intégral Sport. RMC Intégral Sport. Christophe Cessieux.
14h03, vous êtes sur RMC, l'Intégral Sport. Dans une heure maintenant, coup d'envoi de notre dimanche football avec un magnifique programme, hein, je vous le rappelle. Donc à 15h, trois rencontres importantes. Le Havre-Metz, là évidemment, il s'agit de la lutte pour le maintien. Lille-Strasbourg pour poursuivre. Lille qui évidemment va espérer profiter d'un faux pas, pourquoi pas, d'une neutralisation entre Brest et Monaco qui s'affronteront un peu plus tard. Hein, Lille qui est quand même à 3 points seulement de Monaco, à 4 de Brest. Donc ils sont 4e du championnat. Et puis Reims-Montpellier, Reims qui n'a pas abandonné ses prétentions pour être européen. À 17h05, donc Brest-Monaco, c'est la bagarre là pour la deuxième place du championnat, pour être dauphin du PSG. Et à 21h, Paris Saint-Germain face à Lyon, c'est en quelque sorte une sorte de levée de rideau avant la finale de la Coupe de France que posera les deux mêmes équipes un peu plus tard, je crois, aux alentours du 25 mai. Pour évoquer tous ces matchs, j'ai convoqué le coach, évidemment, il est là, mon Roland.
Salut.
Comment
les
ça
amis.
Va? Ça fait plaisir de te retrouver.
Oh, bah c'est gentil ça.
Ah bah oui, mon Roland, il est en pleine forme. Arthur Perrault également. Il est
messieurs.
Avec Roland, on a remarqué, il a des fiches extraordinaires, cet Arthur. Hein. On sent vraiment le professionnalisme là.
Ça sent l'ancien bon élève à l'école.
Ouais.
Quand je vois.
Ouais. Je peux te dire que je l'ai comme élève, c'était pas le cas.
C'est pas forcément pas le cas. Bon cas. Quand je vois ce cahier, j'ai l'impression de voir le gars que j'étais assis à côté.
Non, mais c'est pas. Oui, pas toi. Tu t'avais pas des petits post-it comme ça.
Moi, j'ai copié dessus.
Alors, il y a des post-it, pour tout vous raconter, parce qu'on est à la radio évidemment, il y a des post-it roses, des post-it verts, des post-it bleus.
Ah, c'est les roses, c'est les titulaires, et les verts, c'est les remplaçants. Et comme ça, il y a juste à intervertir les post-it en cours de match, et sais qui
est. Et tu peux les changer en fonction de.
Exactement.
C'est-à-dire qu'avec Luis Enrique, il vaut mieux avoir ce genre de truc, parce que tu sais jamais
vaut mieux avoir 4 ou 5 couleurs de post-it. Hein.
Quelle disposition tactique il va nous livrer pour ce match donc qui intervient 5 jours après la qualification incroyable pour les demi-finales de la Ligue des Champions. Ouais. On a trouvé, Roland, qu'il avait enfin trouvé une équipe type cette semaine.
Oui, avec, c'est peut-être déjà. Celle qui ressemblait comme deux gouttes d'eau à celle qui a joué contre Borussia Dortmund dans la poule.
Ouais.
En tout début de. Il y a 6 mois environ de ça.
Ouais, ouais. Alors, contre Dortmund, il y avait une victoire et un match nul. Ouais. Les Parisiens n'ont pas perdu.
Mais je parle de ce match à 2-0, là, où les
Paris
Saint-Germain étaient pas mal du tout à un joueur près. Donc, c'était cette équipe-là. Après, bon, ben. Il a un petit peu tout essayé pour revenir un petit peu à cette équipe.
Vraiment, les premières idées sont souvent les meilleures. Hein.
Ouais, souvent. Et en plus de ça, c'est vrai que cette équipe-là, bon, à un joueur près, c'est une équipe que l'on pouvait penser qu'elle soit redoutable.
Alors, le seul problème, Arthur, c'est que évidemment, il faut gérer l'effectif, oui, parce que là, il y a quand même une accumulation de matchs qui vont s'enchaîner. Paris n'est pas encore champion, le sera peut-être mercredi prochain. Alors, qu'est-ce qu'il va nous donner comme compo et quelle tactique? Est-ce qu'il va faire tourner ou est-ce qu'il va garder l'équipe type?
On est en plein dans cette gestion d'effectifs dont tu viens de parler et la preuve en est ce matin avec la publication du groupe parisien retenu pour cette rencontre et l'absence, une nouvelle fois, ça avait été le cas pour le match de championnat à Marseille, de Nuno Mendes. On sait qu'il revient de blessure et donc le staff parisien et l'entraîneur Luis Enrique ont décidé de le ménager, de le laisser au repos pour donc cette rencontre pour le compte de la 30e journée de Ligue 1. Ce qui est certain, c'est que le message a été passé depuis le début de semaine du côté du campus PSG à ceux qui sont habituellement remplaçants, même si encore une fois on sait qu'Enrique ne veut pas que des titulaires, il veut vraiment un groupe complet de joueurs possibles. Ceux qui sont habituellement remplaçants auront plus de temps de jeu, ce qui nous amène à croire que il y aura des perturbations dans l'équipe alignée ce soir par Luis Enrique au Parc des Princes, qui ne devrait pas bouger en principe, mais on va rester prudent. C'est la présence de Donnarumma en défense. Hakimi devrait être aligné à droite. Beraldo pourrait lui débuter à gauche à la place de Nuno Mendes. Et puis la charnière centrale Marquinhos, Danilo. Au milieu de terrain, Zaïre Emery pourrait enchaîner aux côtés de Kangin Lee et de Carlos Soler, qui eux ont moins de temps de jeu ces derniers temps. Et puis devant, Dembélé pourrait débuter à droite. Mbappé, on sait que c'est toujours compliqué de ne pas le faire débuter lors de ce type d'affiche assez importante. Lui devrait débuter à gauche. Et puis devant, je sais que ça va faire plaisir à Roland, un vrai numéro 9, Gonzalo Ramos, qui lui voilà, va beaucoup mieux ces derniers temps. Il pourrait débuter à la pointe de l'attaque parisienne. Mais voilà, force est de constater qu'on va peut-être être de nouveau dans les expériences tactiques de Luis Enrique. Et évidemment que la question lui a été posée hier en conférence de presse de veille de match. Il était beaucoup critiqué sur ses expériences. On repense notamment à la présence d'Asensio lors du match aller face à Barcelone. Lui, on va dire, ne prend pas vraiment en compte ces critiques-là. On l'écoute.
On fiche des critiques.
Pas du tout, en aucun cas. Je suis entraîneur depuis plus de 10-12 ans et j'ai été attaqué, vilipendé, ignoré. J'aime le rythme, j'aime la plaisanterie, il n'y a aucun problème. Qu'il continue à aboyer, la caravane passera.
Voilà, c'est pareil, c'est la même expression en espagnol.
Il a raison de répondre à ça, mais si tu veux, les passionnés de football ont peut-être raison aussi de lui faire remarquer que malgré quelques conneries, ben ça marche quand même, et dans, sans me faire le professeur de français, dans la phrase il y a malgré et quand même.
Mm-hmm. Puis il y a eu quelques attaques personnelles aussi contre lui portées parfois.
Et si tu veux, si par exemple tu démarres,
tu peux attaquer l'homme, tu peux attaquer l'entraîneur, tu peux ne pas être d'accord avec lui.
Tu démarres, Christophe, avec Asensio. C'est une idée. Il y a des idées qui sont bonnes, d'autres moins bonnes. Il y a des périodes où, quel que soit l'entraîneur, t'y es inspiré, d'autres qui t'y es pas inspiré. Et que Asensio, ça va être une mauvaise idée d'un Luis Enrique pas inspiré sur ce coup-là. C'est pas grave, puisque ça a marché quand même. Ouais. Donc, il n'y a pas une question de caravane qui passe, les chiens qui aboient, les machines, etc. Là, tu fais une connerie et ça marche quand même. Eh ben, tant mieux pour toi.
C'est vrai que le bilan pour l'instant du PSG, cette saison.
Il est irréprochable.
Je veux dire, qualifié pour la finale de la Coupe, champion probablement lors de la prochaine
demi-finaliste
journée.
De Coupe d'Europe.
Demi-finaliste d'Europe. Alors tu as renversé le Barça. C'est vrai que là, c'est difficile. Aujourd'hui, ça devient difficile d'être critique à l'égard de Luis Enrique.
À la fois sur ce bilan et le fait qu'il soit toujours gagné dans ces compétitions, tout simplement dans la gestion de l'effectif. On en a encore la preuve aujourd'hui. C'est-à-dire que c'était difficilement imaginable la saison dernière, par exemple, je prends la saison dernière comme exemple, d'avoir un Nuno Mendes ménagé face à Lyon alors qu'il a disputé la dernière rencontre et qu'il revient de blessure depuis quelques semaines. C'était presque quelque chose d'impensable. Et on en a une nouvelle fois la preuve aujourd'hui. Et force est de constater que dans la gestion des hommes, même si on n'a pas allé tous les détails de la relation avec les uns et les autres, et notamment d'un certain Kylian Mbappé, force est de constater que sur le terrain, ça paye. D'accord, et quand il y a des changements, ils sont toujours payants.
Mais Nuno Mendes, c'est quoi ton explication?
C'est pas une blessure. J'ai vraiment redemandé. On s'était posé la même question face à Marseille, souviens-toi. Ouais. Ce n'est pas une blessure. C'est vraiment parce qu'il est ménagé. Il ne veut prendre aucun risque avec lui. Il est peut-être encore un peu fragile. Et dans ces cas-là, il a décidé sur ce match-là de le faire souffler. Voilà.
Mais donc, on peut penser ça tout à fait intelligent. Et je pense pas que c'est un exploit de ménager un joueur.
Mais tu l'as jamais eu avant.
Qui est resté un an sans jouer.
Paris Saint-Germain, ces derniers temps, la tendance était
équipe MB, ça fait 3 ans qu'il est ménagé.
Oui, mais regarde, là on a pris le temps avec lui. Hein? C'est comme Skriniar, on a pris le temps avec lui, on lui a dit va te faire opérer alors qu'il était pas obligé de le faire, il a été se refaire opérer et regarde Moscardo, pareil, il est censé arriver au Paris Saint-Germain, il est censé jouer, on lui a dit non, tu vas d'abord aller te faire opérer et faire ta rééducation à Aspetar au Qatar avant ensuite de peut-être signer chez nous. Donc c'est vraiment quelque chose, c'est vraiment une tendance au Paris Saint-Germain, chose qu'on n'avait jamais avant.
Eh ben ça, je te dis sincèrement, je m'en étais pas aperçu qu'il y ait plus de prudence maintenant.
Ah mais c'est réel, c'est
avec,
réel.
Avec des cas comme Nuno Mendes, sincèrement, c'est le contraire moi que je trouverais anormal. Mais bon,
on était habitué au contraire.
Je t'écoute toujours attentivement.
Eh. Il faut l'écouter parce que quand on a des post-it aussi beaux, il faut.
Oui.
C'est la science qui parle quand même. Un petit mot quand même de l'Olympique Lyonnais, qui ne vient pas, comme dirait l'expression, victime expiatoire au Parc des Princes ce soir. Non. Les Lyonnais font. Depuis que Sage est arrivé à la tête de l'effectif, ont un parcours incroyable, tout simplement. D'ailleurs, qui a été souligné par Luis Enrique, je crois. Hein.
Oui, il a dit qu'il fallait évidemment se méfier de cette équipe lyonnaise et le travail effectué par Pierre Sage. Dernière défaite de Lyon, c'était le 3 mars. Ouais. Défaite 3-0 contre Lens. Depuis, on va dire que la seule fausse note, ça a été un match nul, un but partout, le 30 mars dernier face à Reims. Lyon qui est 8e et qui, en effet, s'est trouvé une stabilité. Alors, il y aura un élément important, je trouve, ce soir à prendre en compte dans cette rencontre, c'est que les Lyonnais seront soutenus par 700 supporters. En effet, le match sera classé à risque, mais 700 supporters extérieurs au Parc des Princes, ce n'est pas rien. Voilà, c'est 700 supporters qui vont pousser derrière cette équipe. Alors certes, il y a Tagliafico qui est suspendu, mais on peut quand même noter la présence d'Alexandre Lacazette qui avait reçu un gros coup lors du dernier match, un gros choc avec le gardien adverse, le gardien brestois. Finalement, il est bien présent ce soir. Voilà, on a quand même une équipe pour en citer les grandes lignes. Lopez, la défense Mata O'Brien au milieu de terrain, Cacré qui devrait être aligné aux côtés de Matic et de Mangala, et puis donc devant Lacazette entouré de Benrahma et de Fofana. Finalement, quand on regarde cette équipe, elle est amenée à plus que jamais concurrencer le top 6 dans cette fin de championnat.
Oui, et puis bon, c'est un match passionnant à voir, puisque bon, c'est aussi quelques semaines avant la finale de la Coupe de France.
25 mai, oui. Voilà, donc pour la finale de la Coupe de France.
Et puis les Lyonnais sont là, 8e de cette Ligue 1, à portée de fusil des Européens. Ah oui, puisque Lens est à 46 points, Nice 47.
Donc Nice se méfie.
C'est les termes, les termes à la mode.
Méfie, c'est le nom de l'aigle, hein, tu sais. Hein, donc la fil de tout.
Cette remontada, c'est le terme à la mode, mais la remontada.
C'est démontada maintenant, comme dirait Jeannot. Hein, c'est la démontada.
Ouais, c'est vrai, la remontada de Lyon.
C'est
quelque chose, je sais pas, c'était un record pour moi. C'est quelque chose, mais c'est même pas d'extraordinaire. J'arrive pas à trouver les mots.
Ouais, avec un entraîneur, Pierre Sage, incroyable.
Que je trouve très compétent et qui est vraiment le gars qu'il fallait au moment où il le fallait. Et ensuite, que Lyon ait su profiter d'un règlement discutable, de pouvoir prendre au mois de décembre 7 joueurs nouveaux pour pouvoir faire la deuxième partie du championnat. Mais sur ces 7 joueurs, je trouve qu'il y a eu un bon choix sur au moins 5 sur 7. Mm. Et là-dessus, bravo d'avoir su profiter de ce règlement.
On rappelle 44 ans Pierre Sage et en contrat jusqu'à juin 2024. Donc jusqu'à cet été. Donc la question va se poser aussi de son avenir assez rapidement.
Ouais. Mais qu'est-ce qu'on en dit jusqu'à présent? Ça semble en bonne voie.
La question se pose pas vraiment. Enfin, oui. Pour avoir parlé du sujet avec notre correspondant Édouard Jay, on préfère se soucier de la fin de saison et de la remontada dont dit Roland, plutôt que de déjà acter la suite de l'aventure avec Pierre Sage.
Parce qu'on ne s'imagine pas ce que fait Sage, mais on peut s'imaginer aussi sur ce que pourra faire celui qui remplacerait éventuellement Sage.
Au vu de la dynamique, c'est quand même difficilement envisageable
de le mettre là. Je pense que ce serait très mal vu. Hein. Franchement, ce serait complètement stupide. Oui, mais on sait, de temps en temps, les présidents ont besoin d'avoir
un nom.
Un truc qui brille. Des paillettes, des strass et des paillettes. Mais bon, ce Pierre Sage, il ne fait pas beaucoup de bruit, mais il est là, bien en place. Et l'Olympique Lyonnais.
Quand il explique les choses, certains qui ont du mal un petit peu à les suivre.
Puis là, tu l'aimes bien.
Ah ben oui, parce que d'accord. Je trouve clair, net, précis. Je me mets à la place des joueurs qui l'écoutent leur expliquer ce qu'il faut faire et pas faire, ou mieux faire. Ben, je trouve, je trouve très compétent. Et maintenant, par contre, alors je dis pas que c'est une erreur, mais c'est une habitude. J'ai vu la saison dernière à Nice, ton club, Digard, ben faire un parcours extraordinaire. Et dès qu'il y a eu après une interview avec questions-réponses avec deux ou trois pages sur le journal le plus important de notre pays, ils sont tout seuls. Donc c'est l'équipe. Ben des fois derrière des questions-réponses, mais des erreurs comme ça, on les a tous faites. Ben je pense que c'est mieux de terminer la saison et de faire cette interview à la fin.
À la fin, d'accord. Parfait, merci Arthur. Rendez-vous donc tout à l'heure. Ce soir. Quel âge ? À quelle heure ? Quel âge ? C'est plus jeune.
21h avec Jeannot, on sera au Parc des
Princes. Nous, on n'est plus, à l'âge.
La question se pose pas.
À l'heure près avec Roland, évidemment. on vous suivra tout à l'heure avec Jeannot. Merci Arthur. 14h17, dans un instant on va parler d'un autre match encore plus excitant qui aura lieu tout à l'heure à 17h entre Brest et Monaco. Un petit détour quand même par Liège-Bastogne-Liège. On est à moins de 100 km de l'arrivée désormais. Arnaud, il se passe des choses.
Oui, quelque chose est peut-être en train de se jouer sur cette édition de la Doyenne. Il y a quelques kilomètres, à 97 km de l'arrivée, c'est-à-dire avant juste l'enchaînement, la côte de Mont-le-Soie, la côte de Wann, la côte de Stokeu, la côte de Haute-Levée, chute en milieu de peloton. C'était pas une chute très violente, c'est un coureur de l'équipe Lotto Destiny qui a mis sa roue avant dans le caniveau, qui a glissé sur la route et ça a provoqué une chute sur, on va dire, une quarantaine de coureurs, et malheureusement pour lui, était bloqué derrière sur une route très étroite. Mathieu Van Der Poel, qui n'a pas été pris dans la chute, mais qui a perdu beaucoup de temps, et actuellement, eh bien, il est pointé dans un groupe qui est à 50 secondes du groupe du reste des favoris dans lequel on a Tadej Pogacar. Donc la situation de course à 91 km 600, on a toujours nos échappés qui sont sur le point de se faire reprendre par le peloton des favoris, pointé à 15 secondes et donc pointé à plus d'une minute, c'est-à-dire 50 secondes derrière le groupe des favoris, le groupe de Mathieu Van Der Poel. Peut-être que quelque chose est déjà en train de se jouer sur ce Liège-Bastogne-Liège.
Coup dur, Cyril, coup dur évidemment pour Van Der Poel. On n'a pas vraiment l'intention de l'attendre dans le peloton. La course est lancée.
Là,
hein. La course est lancée, Cyril. Donc Van Der Poel, s'il veut essayer de faire quelque chose, va devoir activer ses équipiers et donc fournir beaucoup d'efforts à 91 km de l'arrivée, et il pourrait le payer plus tard.
Oui, tous les efforts se payent, hein. Il n'y a rien qui se retire. Alors c'est vrai qu'il était descendu en queue de peloton pour remettre des équipements à sa voiture, comme d'autres d'ailleurs. Et là, il y a eu cette chute dans laquelle il n'a pas été impliqué, mais il a fallu passer l'ensemble des coureurs enchevêtrés avec leur vélo. Il a perdu une minute, et pour l'instant, il se promène avec 45 secondes. Alors le problème, c'est qu'on va arriver là où la course démarre en règle générale, véritablement, la côte de Wann. Mais quand je dis que la course démarre là, elle démarre déjà avant, ne serait-ce que pour venir se placer, cette côte de Wann qui fait quand même 3 600 km. Et je pense que le peloton ne se relèvera pas. Mais ce qui est assez amusant d'ailleurs, c'est que Oui, ce n'est pas les équipiers de Pogacar qui roulent, mais les autres équipes qui roulent. Donc pour l'instant, c'est tout bonif pour Pogacar.
Et est-ce qu'on a des nouvelles d'autres coureurs qui seraient retardés
Alors, a été retardé également côté français Valentin Madouas, qui est dans ce troisième groupe. Je pense que, et je suis quand même assez étonné justement d'avoir aperçu l'équipe Bahreïn, il me semble, prendre la main dans le groupe principal. Pourtant Peyo Bilbao est retardé. On a également Jesús Herrada, on aurait Alexander Vlasov également dans ce groupe, donc pointé à plus de 1 minute 07 désormais, c'est-à-dire que le groupe Van Der Poel continue à perdre du temps, seconde après seconde, 53 secondes actuellement de retard sur le peloton Tadej Pogacar. 88 km 900 encore à parcourir.
Ah, ce serait évidemment un coup dur, évidemment. Nous qui espérions tant de ce duel entre Van Der Poel et Pogacar, eh bien le duel est peut-être avorté avant même d'avoir débuté. On verra ça dans les quelques kilomètres qui viennent.
Il y a encore beaucoup de kilomètres.
Ouais, mais bon, quand t'as un écart comme ça, devant la course est lancée, ça sera difficile de rattraper ces 45 secondes, à moins que Mathieu fasse un gros effort tout seul comme il en a l'habitude, mais enfin lutter contre un
pas
bouton,
senti
c'est pas facile,
sur hein. les images ouais avec il avait l'air un petit peu dépité, tu sais, j'ai vu la l'image des grimpeurs en mal dans les ascensions du Tour de France, tu sais, qui dézippent leur veste mais qui ne l'enlèvent pas complètement et qui sont un petit peu dans le mal. J'ai vu cette image là en Mathieu Van Der Poel, ça ne veut rien dire évidemment, mais voilà, il va falloir fournir des efforts, une minute à rattraper ouais. vu ce qu'il reste sur les 90 derniers kilomètres, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 difficultés, ça va être chaud.
Ouais, ça va être très chaud effectivement pour Mathieu Van Der Poel. Il est 14h21 sur RMC. On suit évidemment cette doyenne et on continue de vous présenter les affiches du jour dans un instant. On va parler de Brest-Monaco qui débutera tout à l'heure à 19h05. À tout de suite.
RMC Intégral Sport.
Christophe Cécile.
Avant de nous intéresser à Brest-Monaco, dans un instant, on fait un nouveau point avec toi, Arnaud. Où en est la situation pour Mathieu Van Der Poel, on le rappelle, qui a été retardé suite à une chute dans le peloton. Il était tout à l'heure à 50 secondes, son retard, désormais.
58 secondes, le retard qui, à défaut en tout cas de s'agrandir, on va dire irrémédiablement, ne diminue pas. Le retard ne diminue pas. Les échappées ont été reprises à 1 km 800 du haut de la côte de Wann qui... On fait 3 km 600 à 5,1% de moyenne et on voit ce deuxième peloton étiré en file indienne, alors que là il y a un problème mécanique pour un coureur de l'équipe Ineos Grenadier. Est-ce que ça serait pas Egan Bernal? Je suis pas sûr. Bon bref, peu importe, en tout cas 59 secondes désormais de retard pour le groupe Van Der Poel. C'est Thomas Pidcock, donc peu importe pas finalement pour l'équipe Ineos Grenadier. Alors je sais pas avec quel groupe là il est reparti Thomas Pidcock, mais en tout cas il a dû changer de vélo. Donc 86 km 600 le groupe Pogacar devant a repris les échappées à une minute derrière le groupe Van Der Poel.
Ok, à tout à l'heure, 14h24, on continue donc d'égrener les matchs que vous aurez le privilège de suivre sur RMC à partir de 15h, hein, 3 matchs donc à partir de 15h, et puis à 17h, l'un des chocs, sinon le choc de la journée, il y a Paris Saint-Germain-Lyon effectivement, mais en termes mathématiques et en termes d'enjeux, Roland, le match le plus important du jour, ce sera tout à l'heure à 17h05 entre Brest et Monaco, là, il n'y a pas photo, hein.
Ah ben oui, c'est un match en plus intéressant et passionnant.
Exactement, un match que vous fera vivre Xavier Grimaud, qui est déjà dans le Finistère. Il a l'habitude, hein, ça fait un paquet de fois qu'il fait la route. Hein. Je sais pas combien il a fait de kilomètres et combien de fois il est allé à Brest depuis le début de la saison. Ah, mais
c'est un peu long. Hein, c'est vrai.
Combien d'heures depuis chez toi? Ça fait quoi, 3 heures de route à chaque fois?
Ouais, de 2h45 à peu près. J'habite vers Rennes. Ben voilà. Voilà. Mais la Bretagne est grande, hein, faut plus de 3h30 pour la traverser.
Alors, l'avantage, c'est que tu payes pas de péage. Ça c'est bien quand même.
C'est vrai.
Bon, Brest-Monaco cet après-midi, donc match énorme, parce qu'on rappelle que les deux clubs sont séparés d'à peine un point. Xavier, Brest est deuxième, 53 points, Monaco troisième, 52 points, un match en moins pour les Monégasques, mais ce sera face à Lille.
Face à Lille,
Brest qui a perdu de manière un peu bizarre la semaine dernière et qui évidemment cette semaine a crié, c'est un petit peu révolté contre ce qui s'était passé. On les sent très remontés, les Brestois, et envie de revanche cet après-midi. Hein.
Oui, clairement, ils sont remontés parce qu'ils se rendent compte qu'il y a eu des faits de jeu qui, en étant tout à fait objectifs, effectivement, leur ont été défavorables à Lyon la semaine dernière. En n'oubliant pas, malgré tout, qu'ils menaient 3-1 et 4-1, ils auraient peut-être dû, mieux gérer ça pour revenir avec la victoire de Lyon sans avoir eu besoin, finalement, de parler des erreurs d'arbitrage. Malgré tout, bon, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de matchs, notamment face au gros, alors c'est factuel, où l'arbitrage leur a été défavorable. Il y a eu cette phrase de Grégory Lorenzi, le directeur sportif dans les couloirs de Lyon, en disant on sait très bien que peut-être Brest dérange, c'est le fameux on dérange, on veut pas nous voir là. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Bon, Eric Roy, il était un petit peu plus calme vendredi en conférence de presse. Enfin, faut le dire vite, parce que malgré tout, il a quand même passé des messages, notamment auprès de la commission discipline, on va l'écouter, qui n'a pas annulé le carton rouge de Pierre Lesmelou. Ça a été un des faits de jeu du match, alors que Pierre Lesmelou avait été, on va dire, plutôt, on va pas agresser, hein, le terme sera trop fort, mais vilipendé par Tagliafico, et il avait pris un jaune, alors que selon lui, il avait pas fait grand-chose. Écoutez, Eric Roy, un peu ce qu'il pense de tout ça, de l'arbitrage que l'on peut faire envers les Brestois.
On a le football français qui, au lieu justement de quelque part, de temps en temps, réparer certaines injustices, ne font que les appuyer ou les conforter. Je ne remettrai jamais en doute l'honnêteté intellectuelle et des arbitres. Jamais. parce que je sais trop bien que c'est un métier qui est difficile et j'en veux pas à monsieur Vernis. Donc la théorie du complot, bien sûr que je n'y pense pas. Je suis conscient aussi que quelque part, en Coupe d'Europe, c'est mieux d'avoir Lyon avec un grand stade, avec une grande équipe, avec des gros budgets. C'est mieux d'avoir Marseille avec un grand stade et on l'a vu hier. Mais en même temps, je sais très bien que bah, peut-être pour certains... institutions du football en général, d'avoir Brest, Coupe d'Europe l'année prochaine, c'est pas le truc le plus sexy peut-être pour eux, quoi.
Alors, Roland, ton avis sur ce que vient de dire Eric.
Est-ce que c'est sexy, Brest, en Ligue des Champions?
On peut le comprendre, mais on peut aussi regarder ce que fait Brest de façon assez passionnante par rapport aux passionnés que nous sommes. Voir Brest rivaliser avec budget moyen avec pratiquement les gros clubs de notre pays, ben je trouve ça extraordinaire. C'est pas,
oui, alors
c'est
mais pas toi en tant que passionné, Roland, oui. Mais est-ce que tu penses que les grands patrons du foot français voient ça avec passion de voir Brest éventuellement qualifié pour la Ligue des Champions aux dépens de clubs plus prestigieux avec de plus grands stades?
Si tu veux, évidemment hein, que tu peux tout penser, mais je trouve très intelligent ce que dit Eric Roy en ce qui concerne les arbitres. Tu peux avoir un réflexe dans un Lyon Brest à Lyon, tu peux avoir un réflexe d'un coup de sifflet qui va plutôt être favorable à Lyon qu'à Brest, mais ça c'est depuis que l'être humain existe, ça n'a rien à voir contre Brest. Quand tu vois ce qui se passe avec le Real Madrid depuis 100 ans, le Real Madrid c'est peut-être le plus grand club du monde, les quelques coups de sifflet en plus, ça leur fait pas dommage dans
certains. Je veux dire qu'on n'arbitre pas de la même manière les grands clubs avec un peu plus de prestige que les autres.
C'est difficile d'être vraiment impartial. Tu peux faire des erreurs en ce qui concerne les coups de sifflet, mais tu peux aussi quand même te mettre à la place du petit. Et quand je vois certains coups de sifflet, je regarde la télé en bougeant la tête de droite à gauche et me disant je suis vraiment content d'être devant la télé, de pas être sur le banc de cette équipe-là qui vient de subir un carton jaune qui s'est transformé en rouge, qui vient de subir un pénalty, qui n'a pas eu le pénalty alors qu'ils auraient dû l'avoir. Donc tout ça, ce sont un petit peu des sujets de conversation, mais pour en revenir en résumé, ça va pas quand même enlever et effacer ce qu'est en train de faire
tout au long de cette
saison. Alors par contre, on parle uniquement du dernier match qui s'est déroulé de façon bizarre. Ils mènent à 3-1, ils se font remonter et puis ils perdent la dernière minute. Bon, le match d'avant, c'est un match à domicile contre Metz.
Tu mènes 4-3.
Tu mènes 4-1, ça se termine 4-3 et tu te demandes ce qui se serait passé s'il y avait eu 5 minutes de plus. Donc là, 2-4-3 du côté de Brest sur les deux derniers matchs. Ça ressemble pas à ce que fait Brest depuis le début de la saison où je me les imagine mieux organisés et plus solides. Après, on va voir ce qui va se passer contre Monaco, mais dans nos calculs, n'oublions pas que la deuxième ou la troisième place, c'est pratiquement la même chose.
C'est
la quatrième.
Par rapport aux saisons précédentes, c'est ça qui change. Hein,
Par exemple, tiens, match nul. Dans ce match-là, ce qui est pas impossible, les deux équipes sont contentes.
Le seul problème, c'est que Lille est pas loin. Lille est pas loin.
Et d'ailleurs, c'est mercredi.
Monaco-Lille.
Donc celui-là aussi il est beau.
Parce que là, effectivement, entre 3 et 4, ça change. Hein, entre
on parle
3 et
4. D'un Brest-Monaco, mais le Monaco-Lille aussi il est beau.
Ouais. Effectivement.
En tout cas, les regards seront portés quand même sur l'arbitre ce soir. Alors justement, on a une intelligence.
Comment faire pour mettre la pression
l'un des meilleurs et l'un des plus expérimentés. Certainement, c'est Rudy Buquet qui sera au sifflet ce soir. Mais après, pour parler de jeu, Roland, tu as raison. Hein, Eric Roy et les Brestois sont bien conscients qu'ils ont très mal géré leur fin de match positivement face à Metz parce qu'ils s'en sortent avec une victoire. Mais là, ils étaient plus a priori dans l'euphorie un petit peu. Il y avait les le public qui chantait on est en Europe, voilà, un petit peu dans l'enflammade, et à Lyon un peu plus dans la gestion des émotions négatives qu'ils n'ont pas su gérer. Donc Eric Roy sait que son groupe est un petit peu sur le fil et qu'il va falloir aussi les canaliser pour bien gérer cette fin de saison. Et puis sur le terrain, quand même, juste rappeler niveau compo que il y aura des joueurs qui vont manquer. Pierre Lesmelou, donc le meilleur joueur de Brest, Alexander Golovin, le meilleur joueur de Monaco,
et puis lui c'est pas pour un match,
on l'a appris ce matin dans l'émission des paris. Brassier aussi
et Brassier exactement qui est blessé, donc Brest est quand même diminué pour cette rencontre, puisque Brassier et Lesmelou, ils sont dans le top 3 des meilleurs joueurs brestois de la saison. On rajoutera Bizot pour compléter le podium. Donc voilà, en tout cas on espère voir du jeu.
Pourquoi, Bizot,
pas de fait d'arbitrage.
Bizot n'est pas là ce soir?
Non, si, Bizot est là, mais je veux dire, parmi les trois meilleurs, il y a finalement qui est là cet après-midi. Donc on espère qu'on parlera pas de fait de jeu, mais qu'on parlera plus du terrain pour une affiche quand même qui est assez excitante.
Et puis bon, après, il y a ce qui se passe sur le terrain. Un coup de sifflet, c'est des fois pas facile à porter. C'est, des fois, tu peux te tromper. Mais par contre, avec des images, voir Lesmelou, qu'on ne l'ait pas enlevé ce match de suspension, là je pense aussi que ça fait rebelote, tu vois, tu as deux coups durs là.
Voilà, là.
Ah ouais.
Coup dur effectivement donc pour les Brestois, puisque Pierre Lesmelou, qui est quand même à la cheville ouvrière de cette équipe de Brest, ne sera pas là cet après-midi. Donc 17h05 pour le coup d'envoi de ce match entre Brest et Monaco, à suivre avec Xavier Grimaud au commentaire. Le stade sera plein, le temps, quel temps fait-il dans le Finistère aujourd'hui?
Il fait beau, enfin il fait, c'est correct, mais il fait froid par contre. Il y a beaucoup de vent et la température, c'est pas du tout la température du mois d'avril, mais voilà, on a l'habitude d'avoir du vent, du frais à Brest. Mais oui, bien sûr, le stade sera plein, le stade sera chaud, parce qu'en cas de victoire, ce sera pas complètement mathématiquement fait, mais le top 6 serait assuré. Donc ça veut dire que Brest se retrouverait pour la première fois de son histoire en Coupe d'Europe l'année prochaine. Ça se jouerait un petit point, donc voilà, une victoire et Brest serait européen l'année prochaine, ce qui serait insensé pour ce club.
Donc ça veut dire pour Xavier Grimaud des allers-retours pas seulement le week-end, mais aussi en semaine la saison prochaine. Voilà, mais enfin, quand on aime, on ne compte pas les kilomètres.
C'est un métier.
Tu dois prendre une petite garçonnière à Brest, Xavier. Allez, à tout à l'heure, 17h05 donc pour le coup d'envoi de ce match entre Brest et Monaco. Détour par Liège-Bastogne-Liège, ça va mal, ça va très mal pour Mathieu Van Der Poel. Va-t-il revoir la tête de course? C'est pas sûr, Arnaud. Hein.
C'est pas sûr, mais je parierai pas non plus sur l'inverse. La situation à 80 km 300 de l'arrivée d'échappée a été reprise. Nous sommes donc à 80 km non loin de la côte de Stokke, là où Eddy Merckx a construit plusieurs de ses succès sur la doyenne des classiques. Et si Pogacar faisait comme Eddy Merckx, déjà qu'il fait pas mal comme Eddy Merckx, en tout cas voilà, il est dans le groupe de tête Pogacar. Il a fait rouler l'un de ses équipiers Domen Novak, et 1 minute 20 l'écart qui a même tendance à diminuer derrière le groupe Van Der Poel. Ben oui, ça diminue parce que ça s'est mis à s'entendre. Forcément, il y a quand même du sacré monde dans ce groupe. Derrière, on compte Mathieu Van Der Poel, on compte Thomas Pidcock, on compte Peyo Bilbao, Romain Grégoire, Valentin Madouas, Alexander Vlasov, Simon Yates est également dans ce groupe, Mauri Van Sevenant. Il me semble également avoir aperçu Jay Hindley dans ce groupe. Donc voilà, c'est en train de s'organiser petit à petit. Oui, il y a de gros poissons. C'est pour ça que ça va forcément collaborer, et c'est pour ça que l'écart est en train de diminuer. Il n'y a plus que 1 minute et 15 secondes d'écart, mais l'enchaînement des difficultés risque de faire du mal. Côte de Stokke et côte de Haute-Levée à venir. Attention, attention les yeux, attention les cassettes, attention les plateaux. Là, ça va y aller, là, les développements.
Cyril, est-ce qu'ils ont une chance de revenir?
Oui, ça, on attaque Stokke à l'instant.
Stokke
avec les UAE en tête, Pogacar en troisième position.
Est-ce que ça a une chance de revenir, Cyril?
Je mets pas une pièce. Hein.
Tu mets pas une pièce.
Tu mets pas une pièce sur l'inverse non plus.
Ça peut revenir.
Est-ce que tu mets un doigt sur le fait que ça n'en reviendra jamais? Est-ce que tu mets un doigt à couper sur le fait que ça n'en reviendra pas?
À couper, non, mais je pense que ça va être difficile de revenir, bien que la côte de Stokke va énormément, et c'est ce cas actuellement, énormément étirer le peloton de tête, et qu'en fait la queue du peloton risque d'être assez proche, assez proche du groupe Van Der Poel-Pidcock, parce que Pidcock, lui, n'a pas été pris dans la chute, mais il a eu un problème mécanique qui l'a rejeté dans le deuxième groupe. Et dans la montée de la haute levée, si on n'est pas très loin de la queue du peloton, on peut faire le saut, peut-être.
On verra ça.
Mais après, ça sera difficile.
Bonucci, Tadej Pogacar, Romain Bardet, Ben Hill, Mathias Skelmose sont dans le premier groupe à 79 km de l'arrivée, 1-08 derrière le groupe Van Der Poel avec Thomas Pidcock qui à l'instant dans la côte de Stokke, on le disait, lui qui avait été pris tout à l'heure dans pas dans la chute mais dans un problème mécanique, a décidé de placer une cacahuète pour essayer peut-être de refaire son écart avec le groupe, et Mathieu Van Der Poel ne semble pas être dans le coup, donc c'est peut-être déjà une indication. En revanche, Thomas Pidcock, lui, eh bien, il essaye d'y aller dans un deuxième rideau. On voit Valentin Madouas, encore 400 mètres à monter devant pour cette côte de haute levée. Mais vraiment, Mathieu Van Der Poel, ouais, j'ai l'impression qu'il n'est pas, il est pas dans un grand jour parce que même de la peine à suivre le groupe Madouas. Il est en queue d'un deuxième groupe dans ce deuxième peloton. Déjà, ça va être très compliqué pour Mathieu Van Der Poel. Thomas Pidcock pointe à 1-04 pour l'instant du groupe de tête.
Voilà, c'est compliqué pour Mathieu Van Der Poel qui en a peut-être terminé avec sa saison des classiques. On rappelle qu'il a quand même gagné quelques-uns des plus grands monuments, mais aujourd'hui il ne semble pas être dans le coup. Il est en queue de groupe et le champion du monde n'est pas aussi aérien flamboyant qu'il l'était il y a encore 3 semaines. 14h38 sur RMC.
Retrouvez le meilleur du cyclisme sur RMC avec Total Énergie. De l'électricité et des services pour maîtriser votre consommation.
L'énergie est notre avenir, économisons-la.
Et avant de continuer d'évoquer les matchs de Ligue 1 qui nous attendent tout au long de l'après-midi et de la soirée, c'est l'heure du défi hippique.
RMC.
Le défi hippique.
Avec Dimitri Blanc. Là, évidemment, c'est l'heure de son show. Salut Dimitri.
Salut Christophe, bonjour à tous. Alors le show, je vais le faire tout seul. Parce que,
mais c'est pas un show alors.
C'est parce que Lilian qui a gagné notre auditeur, c'était vendredi. Bah, on n'arrête pas à l'avoir, Lilian. Voilà,
alors,
tout simplement.
Fait la sieste.
Bah ouais, Lilian, peut-être qu'il est devant Liège-Bastogne-Liège justement.
Peut-être.
C'est peut-être ça. Donc de toute façon, il aura le droit de revenir demain, bien évidemment. Mais je vais tout simplement vous parler de mon préféré dans le quintet du jour, ça sera plus simple, avec notamment le prix du président de la République. Donc c'est à 15h15 sur les forums d'Auteuil, c'est dans pas longtemps, hein. Moins d'une heure. Moi je suis parti sur le numéro 10 Caligramme dans ce quintet-là, qui est proposé pour l'instant à un peu plus de 6 contre 1 au niveau de la cote, parce qu'il a tout simplement terminé deuxième dernièrement de la course de référence. Je trouve qu'il monte en puissance au fil des courses et qu'il devrait pas être loin de la vérité. Donc voilà, je pars sur ce numéro 10, Caligramme. Bah, j'en profite, Christophe, est-ce que tu as un numéro préféré entre 1 et 17 voilà. Est-ce que tu as un numéro fétiche?
Parce que je suis un as.
D'accord. Eh ben écoute, gardien de but, il s'appelle. Voilà, ça aurait plu à Lionel Charbonnier, tiens d'ailleurs. Gardien de but, le numéro 1, qui est proposé à 16 contre 1. Bah, écoute, on verra. Peut-être qu'il sera meilleur que moi.
Alors là, si je gagne pour mon premier pari hippique, là, je.
Bah, disons que tu feras le défi à ma place.
Non, tu crois pas, Roland?
Ouais, pourquoi pas. Et le 5, il est bon?
Ah, le 5.
Alors, le Listrac, eh ben oui, c'est une première chance, hein, Roland.
Tu vois?
Proposé à 11 contre 1.
Il a du nez pour les paris, je peux te dire que là, on va pas lui
faire. Oui.
De toute façon, si vous êtes devant moi, vous le ferez la semaine prochaine à ma place.
Ah, d'accord. On fera le défi pique ensemble avec Roland. On
exactement. Bon, à tout à l'heure, messieurs, 15h15 pour le quintet.
Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux. Perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr et au 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
14h40, nouvelles attaques là. Qu'est-ce qui se passe dans le peloton, mon cher Arnaud?
Et on a 77 km 500 de l'arrivée. Le groupe Pidcock pointé à 50 secondes. Ouais. Mathieu Van Der Poel, lui, est à 1-02. On est dans la fin de la côte de Stokke et on va aborder la haute levée dans quelques instants avec des coureurs en grande difficulté. Mais Thomas Pidcock, lui, c'est dommage pour lui qu'il ait crevé parce qu'il semblait quand même tenir la forme. Il a réussi à combler une partie de l'écart alors que ça roule très très fort toujours devant sous l'impulsion de l'équipe UAE Team Emirates de Tadej Pogacar, évidemment.
Voilà, Mathieu Van Der Poel un peu dans le dur, tout comme Valentin Madouas, le champion de France. Les maillots distinctifs ne sont pas à la fête en ce dimanche d'avril. 14h41, dans un instant, on vous parle des matchs de 15h. Il y en aura 3, Lille-Strasbourg, Le Havre-Metz, Reims-Montpellier, avec des enjeux différents selon les plus. À tout de suite.
RMC Intégral Sport,
Christophe Cessieux.
Avant d'évoquer Lille-Strasbourg, dans un instant, nouveau point sur Liège-Bastogne-Liège. On est à 76 km de l'arrivée. On rappelle qu'il s'est passé des choses depuis quelques kilomètres, que Mathieu Van Der Poel, qui avait le statut de quasiment de co-favori avec Tadej Pogacar, est malheureusement relégué à une minute, mais une minute seulement, hein, derrière la tête de course, Arnaud.
Oui, enfin, là, comme dirait le coach, je préfère l'avoir d'avance que de retard, la minute. Voilà, et là, en l'occurrence,
ça allait rentrer, là.
Ah, moi, j'ai jamais dit que ça allait rentrer. Ah bah j'ai demandé à Cyril s'il mettait un doigt. S'il mettait un doigt. Ah non, pas du tout. Ah bon, j'ai juste dit ne les enterrons pas trop vite. Et Pidcock est en train de, voilà, de me donner raison, puisqu'il est en train de revenir sur le groupe Pogacar. Il n'est plus qu'à 50 secondes. Ce qui n'est pas le cas de Mathieu Van Der Poel, qui est donc à 1 minute 05, qui a été tout à l'heure pris, non pas dans une chute, mais pris dans un ralentissement dû à une chute au milieu de peloton. La route était bien trop étroite pour pouvoir se faufiler à travers les vélos qui étaient à terre. Une chute qui n'était pas grave, hein, je vous rassure. Mais en tout cas, Mathieu Van Der Poel, il a perdu une minute dans l'affaire. Thomas Pidcock, lui aussi, a perdu une minute, mais pas dans cette affaire-là, dans une autre affaire, une affaire de problème mécanique. Il a obligé à changer de vélo et attendre sa voiture qui était loin derrière. Bref, pas mal de favoris, pas au tapis, mais en tout cas qui sont en difficulté. Je vous parlais donc de Pidcock et de Van Der Poel. On peut compter également Mauri Van Sevenant, Peyo Bilbao, Valentin Madouas, Alexander Vlasov, Jay Hindley. Alors que devant, tout roule pour Pogacar, Bardet, Ili, Skelmoseux ou encore Marc Hichy à 75 km de l'arrivée.
Voilà, il est bien entouré, Tadej Pogacar, par la garde de l'UAE. Donc il se dirige probablement vers une nouvelle victoire. On verra ça. Il y a quand même quelques challengers qui pourraient essayer de.
Oui,
de
lui. Attention. Ouais. Ah, tout va si vite, hein. Tout va si vite. Hein.
Ah oui, Gamel est tout vite arrivé, c'est sûr.
Oui.
À tout à l'heure, 14h44, le foot. On continue d'évoquer donc nos matchs de cette 30e journée de Ligue 1. On a évoqué Paris Saint-Germain-Lyon, on a évoqué Brest-Monaco. Descendons un tout petit peu, mais pas très loin dans le classement, puisqu'on va parler de Lille-Strasbourg, match que suivra pour nous Jean Baumel, qui est déjà arrivé, forcément.
Ah, écoute, depuis un petit moment.
Purement, ouais. Oui, bah oui.
Salut mon Christophe, salut coach, bonjour à toutes et à tous.
Ça va mon Jibo, en pleine forme?
Ah, carrément, salut, écoute. Ouais. On a vu un drôle de match hier soir avec Roland. Bon, on espère que ça sera plus festif en termes d'occasion de but, parce que hier c'était entre Lens et Clermont, c'était pas
le. Ah ouais, c'était ouais, enfin, un petit 1-0, mais victoire importante pour les Lensois,
hein, bien sûr.
Qui les remet dans le coup pour une place européenne. Place européenne évidemment que vise également Lille. Lille qui en revanche est sur une période incroyable en ce moment.
Alors, super, c'est vrai, tu as raison. Superbe période, sauf jeudi soir.
Ouais.
Et c'est la grande question, c'est parce que franchement, quand tu vois le match qu'ils font et être sorti à la séance de tir au but, quand tu vois le scénario du match, ça a été très dur, hein. On a vu les larmes, Benjamin André qui avait donc vu son tir stoppé et élimination et bien après ce match contre Aston Villa qui est quand même le quatrième anglais.
Il paraît qu'on parle d'une rue Martinez à Lille, c'est vrai ou non?
Ah, je crois pas. Ou alors pas, ou c'est pas Emiliano, c'est Jean-Pierre Martinez ou Christophe Martinez si tu veux, mais pas Emiliano Martinez, ça c'est sûr. Mais en tout cas, oui, voilà, c'est de voir avec les 120 minutes, la séance de tir au but, mentalement comment sont les Lillois, parce que franchement dans le jeu ils sont très impressionnants depuis un bon petit moment. Leur dernière défaite d'ailleurs c'était contre Toulouse, et depuis on peut pas parler vraiment de défaite, c'est une élimination
malgré l'absence de Zegrova.
Voilà, et il y avait l'absence de Zegrova qui d'ailleurs n'est pas titulaire, hein. Il est sur le banc, mais voilà, il y a l'objectif d'être en Ligue des Champions. Là ils sont quatrième, c'est la place de barragiste, mais il y a un super coup à faire, parce que s'ils gagnent cet après-midi, ils vont attendre tranquillement ce qui va se passer entre Brest et Monaco, et puis mercredi prochain, eh bien il y a un Monaco-Lille. Donc voilà, si Lille gagne ces deux prochains matchs, ils vont passer automatiquement devant Monaco. Mais voilà, faut déjà remporter ce match contre Strasbourg. Et la compo de Lille est un petit peu chamboulée par rapport à Aston Villa. Rappelez quand même qu'à Aston Villa, ils avaient perdu 2-1, hein, mais sur l'ensemble des deux matchs, égalité. Ouais, Chevalier, bien sûr, dans le but.
Terminé tard, hein, jeudi en plus. Hein,
ça va par rapport à Marseille.
3 jours.
C'était 18h45 le match, donc c'est le côté. Mais surtout, c'est mentalement, voir comment ils vont démarrer le match. Chevalier, bien sûr, dans le but. Et puis Alexandro Diakité dans l'axe. Il a laissé au repos sur le banc Lenny Euro, qui joue beaucoup de matchs. Ismaili à gauche, Thiago Santos, qui est très bon d'ailleurs, le jeune latéral droit portugais. Et puis au milieu de terrain, comme Bentaleb est suspendu, on va retrouver Benjamin André et Angel Gomez qui sera titulaire. On va retrouver également offensivement Cabella, Haraldsson au milieu de d'ailleurs en numéro 10, hein, et en soutien de Jonathan David qui est indéboulonnable, et heureusement pour lui il est jamais blessé. Et Youssouf Yazici qui a été très bon contre Aston Villa, qui lui est en fin de contrat, le Turc, mais qui fait une très bonne fin de saison et qui va peut-être permettre au LOSC d'aller en Ligue des Champions.
Deux trois absences importantes, mais l'équipe elle est pas mal quand même.
Oui, bon, les absences sont sur le banc Zegrova, Gudmundsson et Yoro, hein, parce que oui, hein, j'ai pas parlé de Gudmundsson qui avait été bon aussi.
À Bentaleb.
Et Bentaleb, oui, alors Compartmental, t'as raison, lui on le verra pas du tout sur, sur ce match, mais il sera là contre Monaco. Rapidement pour Strasbourg qui est aussi sur une bonne série, hein. Sur les 4 derniers matchs, 3 victoires, 1 match nul, c'est l'équipe annoncée avec Bélarouche dans le but, en défense Sau, Perrin, Silla, les pistons à droite Gilbert, Delaine à gauche, Sissoko, Santos au milieu de terrain, Bakua, Gamero et Diarra pour les joueurs offensifs. Voilà l'équipe de Patrice, Patrick Vieira qui est voilà, en bonne forme et qui pourrait presque, en cas de succès ce soir, cet après-midi plutôt, eh bien, être définitivement installé en Ligue 1 pour la saison prochaine.
Ah mais ça, même à 36 points, tu
Je pense que a priori ça va.
Je suis pas
d'avance sur Metz, quoi, un premier relégable, ouais. Ça devrait aller. Allez, on va parier tout de suite sur cette rencontre.
Winamax, le plus important, c'est de gagner. C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax.
Avec toi, Bredov. Salut Yo.
Salut Christophe. Salut coach. Salut, salut à tous.
Alors, des petites cotes intéressantes.
Bah, bien sûr, il y en a toujours. 1,58 la victoire de Lille. 3,90 le match nul. 5,80 la victoire de Strasbourg. Si je résume ce qu'a dit Gibaud, forcément, on se pose des questions sur l'état mental des Lillois après cette élimination en Coupe d'Europe. Strasbourg va bien. Et dans une bonne série. Moi, je vous propose 4 scores exacts multichances. Tu vas me dire ce que t'en penses, coach. Le 1 partout, le 2 buts à 1 pour l'une ou l'autre des deux équipes, et je rajoute même le 3 buts à 1 pour Lille. Et c'est une cote à 2,70. C'est pas mal.
Allez, ok.
Allez, on prend, on est d'accord, coach. C'est beau.
Et les buteurs, non?
Ah, tu veux jouer quoi? Je te donne les favoris. Jonathan David à 2,10. Ouais. Yazidche à 3.
Et du côté de Strasbourg,
Gamero à 4,60.
Ouais, t'as dit sur celui-là.
Ouais, 4,60, le but de Kevin Gamero. Ouais. Tiens, pourquoi?
Allez, pourquoi pas. Merci, Johan.
Winamax, salut, salut. Le plus important, c'est de gagner. C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax. Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux. Perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr et au 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
Et merci également à Jean Baumel qu'on retrouve dans un instant en compagnie de Christophe Lécuyer qui commentera le Havre-Metz et de Valentin Jamin qui sera à Reims pour Reims-Montpellier. Oui, mon Roland, tu peux aller. C'est l'heure du goûter là. C'est un peu tôt quand même pour le goûter.
Je vais regarder avec beaucoup d'attention la fin de cette course là.
Ah bah tu as vu. Ah bah oui, elle est passionnante parce qu'effectivement, le groupe Van Der Poel est revenu, Arnaud, à 35 secondes de la tête de course quand même.
Et Vlan, Christophe, tu vois qu'il pouvait revenir.
C'est ce que je voulais te dire.
Non mais alors lui, il est trop fort. Coup d'avant, tu me dis reviens pas et là maintenant.
Pas du tout, Christophe.
Tu es un génie,
Arnaud. Ah non, mais c'est quand ça t'arrange. On t'a simplement dit avec Cyril Guimard tout à l'heure.
Oui, c'est un. Tu le sais, hein.
Non, on t'a dit que c'était problématique, mais que c'était pas rédhibitoire. Et tu réécouteras les bandes. Et c'était
tu es trop
effectivement.
Fort, tu es un génie.
Mais non, Christophe, mais enfin, me fait. Non,
mais c'est vrai que t'es un génie. Mais c'est vrai que t'es un génie.
Me fais pas passer pour ce que je suis.
Oui, oui, non, mais je confirme. Bon, le génie étant une qualité. De pouvoir dire une chose et son contraire, et d'avoir raison dans tous les cas. Il est très fort, Arnaud. Bon, alors, on va revenir sérieux, parce que les choses sont en train d'évoluer de façon totalement différente, puisque dans la côte de Stokke, un certain nombre d'équipiers ont été décrochés du groupe, ou se sont laissés décrocher dans la montée de Stokke. Et là, j'imagine assez bien. Et là, il faut avoir beaucoup de sang-froid pour le faire, mais je pense que ça a été le cas. C'est au lieu de faire descendre les équipiers avant la côte de Stokke, on laisse passer Stokke et on fait une photographie à la sortie de Stokke. Mais tes hommes sont devant, ils n'ont pas roulé. Si tu les fais décrocher et que tu rentres pas avant Stokke, tes équipiers sont morts. Alors que là, eh bien, on a tout simplement des coureurs qui sont tout neufs, tout est pas obligatoirement, mais qui sont capables de rouler derrière. Et ce qui est amusant, c'est qu'aujourd'hui, dans le groupe Van Der Poel, c'est l'équipe du Bahreïn qui roule. Et ça, c'est assez amusant parce que c'est eux qu'on fait péter dans un premier temps Van Der Poel. Mais pareil, ils ont dû avoir un petit problème que l'on n'a pas vu avec un des leaders et ils sont obligés de rouler à l'arrière. Et maintenant, tout le monde est dans les voitures. Il n'y a pas de barrage. S'il n'y a pas de barrage, ça veut dire que tout va rentrer.
Uh-huh. Eh bien, on verra ça.
4 secondes d'écart
Combien, Arnaud,
en défaveur 24 secondes, 22 même en défaveur du groupe Van Der Poel. 71 km 400 de l'arrivée. La prochaine difficulté, c'est le col du Rosier à 60 km de l'arrivée.
Fin de course incroyable. On l'espère évidemment qu'on va vivre avec vous, Cyril et Arnaud, et avec Alexandre Bigersa qui va prendre le relais. Il y aura du foot et il y aura du vélo dans les heures qui viennent. Bonne fin d'après-midi et à tout de suite sur RMC pour la fin de cette course.